Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Comment un défi sportif peut-il faire la promotion de la musique et de la culture? C'est ce que va nous raconter Gauthier Herman avec son magnifique projet. Allez, c'est parti! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire, la reprise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils et des rencontres avec des personnes inspirantes. Et vous allez voir que cette semaine, c'est encore une personne très inspirante avec le genre de défi un petit peu doudingue, un petit peu comme ça on pourrait le dire, mais vous en avez l'habitude maintenant. Avant de vous en dire un petit peu plus, si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion du monde de votre monde. C'est gratuit et c'est à l'adresse suivante bertrandsoulier.com/bonus. Et bien sûr, je vous mets le lien dans la note de l'épisode. Et maintenant, venons-en donc à mon invité. Si vous cherchez une photo de mon invité, là, aujourd'hui, là, sur Internet, vous obtiendrez un résultat amusant. Un short, des chaussettes de compression, un camelback, ok, c'est normal pour un coureur. Mais une seule chaussure de trail à un pied, ça, c'est moins normal. Et surtout, une chaussure cirée à l'autre pied, un costume noir, une chemise blanche en haut. Et surtout, un violoncelle dans la main. Et ça, c'est beaucoup moins banal. Un curieux mélange qui énonce les couleurs. Mon invité est un musicien professionnel, mais aussi un coureur, à sa manière, car son entraînement ne ressemble pas au nôtre. Du marathon du Médoc sans préparation après des années sans sport à la Diagonale des Fous, son parcours n'est vraiment pas classique, contrairement à la musique, si j'ai envie de dire. Car si je l'invitais, ce n'est pas pour ça, mais pour son projet incroyable. L'an dernier, il s'était mis en tête de courir entre Paris et Aix-en-Provence pour promouvoir la culture. 900 km en 13 jours, une réussite sportive, culturelle mais aussi humaine, avec un très bel élan autour de l'initiative. Donc, cette année, il recommence avec un festival culturel itinérant. Moins de distance, mais plus d'étapes et plus de concerts. Il va tout nous raconter, son parcours, son lien avec la course, le lien entre la course et la musique, et comment un tel projet se prépare avec la famille, les amis, et puis un petit grain de folie aussi par là, et puis vous allez surtout l'entendre, beaucoup de sourires. Car Gauthier cultive la bonne humeur. Vous allez l'entendre, son sourire ne le lâche pas de toute notre discussion, et vous aurez probablement bien envie de vous joindre à eux pour quelques kilomètres, et puis bien sûr quelques notes de musique. Allez, c'est parti. Bonjour Gauthier.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ben moi je vais très bien, je vais toujours très bien.
C'est vrai?
Ben oui, je vais toujours très bien, ça c'est un truc, c'est comme ça, c'est chez moi.
Alors écoute, on n'a pas prévu d'en parler, mais ça m'intéresse. Ça, c'est naturel ou tu le cultives?
Alors c'est naturel et je le cultive.
Ah, comment tu cultives ça?
Alors c'est naturel parce que j'ai toujours envie d'aller très bien et je cultive ça avec l'effort de toujours reprendre tout ce qui arrive par le prisme de la joie. C'est-à-dire que la joie, je trouve que c'est une valeur qu'on perd et c'est une valeur que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Donc tous les jours, j'essaye vraiment. Enfin, c'est pas un gros effort parce que c'est assez naturel, mais j'ai envie qu'on soit joyeux à la maison, très joyeux.
Mais c'est magnifique. T'as des conseils parce que en plus là on est dans une période mais qui est morose au pas possible. Comment tu fais?
Alors déjà il y a la course qui est un super défouloir. Alors moi je m'entraîne pas beaucoup, mais par contre j'ai des méthodes pour la course qui consistent à faire la même chose, c'est-à-dire que quand ça va pas, je mets que des choses lumineuses dans ma tête et voilà, tout ce qui arrive toujours. Alors on dirait un peu un gourou illuminé, mais pas du tout, hein. Je ne prends pas de drogue et je ne suis pas croyant. Mais par contre, je pense vraiment qu'on peut faire l'effort de toujours aller bien, quoi. Il n'y a rien de plus chiant que les gens qui font toujours mal. C'est insupportable.
Oui, mais bon, on vit dans un pays où le mot préféré des gens, c'est quand même de dire bon courage, souhaiter bon courage aux autres.
C'est vrai. Alors, c'est pas faux. C'est comme le truc, oh là là, tu sais, c'est la vie. On parle toujours d'un truc catastrophique quand on dit c'est la vie. Sauf qu'en fait, c'est la vie, c'est aussi, enfin, c'est principalement de la joie, quand même. Enfin, surtout nous, on est quand même chanceux. Hein.
Enfin,
on a un bon moment. Hein.
Oui, mais après, toi, on n'a pas dit ce que tu faisais dans la vie, en fait.
Ah bah, parce que je fais un métier bizarre, alors les gens comprennent pas. Moi, je suis musicien, je suis violoncelliste, je suis artiste. Alors forcément, c'est vrai que c'est cool.
Alors attends, violoncelliste, ça, tu sais, moi, ça me rappelle des mauvais souvenirs quand même, ce genre d'instrument. Et encore, enfin, je suis pas. Non, c'est vraiment un très mauvais souvenir, moi, ce truc. Comment te dire?
T'as essayé de faire du violoncelle ou?
Du violoncelle, non, mais du violon. On a voulu me forcer à faire du violon dans mon enfance, 2 ans. Et je vais te raconter une anecdote, c'est que je pense que les voisins ont fait la fête le jour où j'ai arrêté.
Non, mais ça, je comprends. Moi, j'avais des menaces de mort quand j'étais étudiant. J'étais à Paris dans un petit appart et j'avais un voisin qui travaillait dans la restauration. Donc, lui, il se couchait à 5 heures et moi, je commençais mes gammes vers 8h15, quoi. Et un jour, il a débarqué et il m'a dit, c'est simple, je vais te casser les bras. Donc, c'est vrai que c'est pas que du plaisir pour les voisins. Et pourtant, j'étais déjà au conservatoire, j'étais déjà à un niveau, j'estime, enfin, j'espère, pas trop mauvais, hein. Mais les gammes, c'est pas marrant.
Non, moi le conservatoire, ils ont dit non, il vaudrait mieux que vous arrêtiez le violon quand j'étais gamin. Et c'est une vraie phrase que j'ai vraiment entendue. En fait, j'ai les doigts qui sont tellement souples que j'appuyais toujours sur plusieurs cordes en même temps.
Ah oui.
Donc forcément, il y a aucun son qui pouvait sortir, aucun son convenable qui pouvait sortir. Ma maman ne sait même pas si j'ai sorti un jour un bon son. Bah, j'ai été martyrisé 2 ans avec cette histoire-là quand même. Hein. Moi, je préférais jouer au foot, aux billes ou je sais pas quoi, mais il fallait faire de la musique parce que c'était bien vu pour les études, etc. Ça allait me structurer mentalement aussi. J'avais ce genre de trucs comme ça là. C'est vrai tout ça ou c'est du flan?
Non, je pense que c'est vrai. Je pense que les enfants qui font de la musique, c'est un apprentissage du travail, de l'effort déjà, du travail. Et puis, c'est vrai que ça structure énormément le cerveau, notamment les pianistes qui apprennent très tôt à lire deux lignes en même temps. Enfin, le déchiffrage, le rythme, c'est un truc qui structure énormément. D'ailleurs, enfin, il y a aussi peut-être un truc social. Enfin, j'imagine qu'il y a des gens qui font des études là-dessus, mais souvent, il y a beaucoup d'enfants en études supérieures dans les grandes écoles qui sont aussi musiciens amateurs.
Ouais, c'est vrai. C'est un point intéressant qu'on devrait. J'ai lu quelques trucs aussi sur l'importance de la musique, etc. Mais c'est vrai ce que tu dis sur l'histoire du piano, lire plusieurs lignes et tout en même temps. Enfin, moi, après, je pense que c'est une question d'entraînement, tout ça.
C'est une question d'entraînement, mais il y a quand même un truc de formateur. C'est quand on est petit, quand on est jeune, enfin, les enfants qui apprennent à lire la musique très tôt, souvent ils sont de bons en maths. Voilà. Il y a quand même des connexions de rapidité, de lecture à plusieurs étages, où on fait un peu naturellement. C'est-à-dire que voilà, les jeunes pianistes qui ont 8-10 ans, qui savent lire 2 lignes en même temps, avec sur chaque ligne 3-4 notes, c'est déjà un avantage exceptionnel.
C'est vrai. Entièrement raison. Bon, bah écoute, hein, je vais en parler à ma fille. Bon, ma fille, elle a 4 ans, c'est un peu petit pour l'instant. Elle aime bien le tambourin, elle aime bien le triangle, elle aime bien le ukulélé aussi. Elle aime bien jouer du ukulélé, ma fille, tu vois. C'est pas perdu, hein, cette histoire.
Non, il faut, mais 4 ans, c'est bien, c'est le bon âge pour commencer les initiations, les découvertes et tout. Et
Ouais.
l'ukulélé, c'est top.
Ouais, elle adore jouer du triangle, du tambourin, du bol tibétain aussi. Elle adore la sonorité du bol tibétain. Tu sais, c'est drôle, hein, comment finalement on arrive à l'amener à jouer. Elle a toujours aimé tous ces instruments-là. Tout. Bon, ouais, bref, on l'amène aussi à courir, hein, à la course à pied, parce qu'on va parler de ça aussi, de course. Mais finalement, t'as dit que t'étais violoncelliste, mais c'est ton métier, ton vrai métier?
Ah oui, c'est mon vrai métier. Moi, mon métier à 100%, c'est de jouer du violoncelle et d'organiser des concerts. J'ai un peu la double casquette. Et donc, mon métier, en quoi il est différent des autres violoncellistes, c'est que nous, on joue beaucoup, beaucoup à l'étranger. Et avant mars 2020, je faisais 80 concerts par an, dont 70 à l'étranger. Voilà, à l'étranger, je veux dire loin, c'est-à-dire, bah, tu vois la carte qui est derrière moi, là, mais partout dans le monde, beaucoup en Asie, Amérique du Sud, tout le Moyen-Orient. Voilà, donc on rigole, en fait, on s'amuse beaucoup et aller à la rencontre de l'autre. C'est ça qui est quand même sympa dans ce métier.
Alors, tu joues, c'est quoi? C'est dans un orchestre, tu joues dans un orchestre, et ça marche comment? Parce que moi, je suis un peu curieux dans ces histoires-là, là.
Alors, il y a plein de métiers dans le métier de musicien. Le mien, c'est de la musique de chambre. Hein, c'est-à-dire que je joue dans des petites formations, de trio, quatuor, quintette. Moi, j'aime pas l'orchestre parce que c'est une grosse machine à déplacer qui correspond pas à mon tempérament un peu impatient. Ma femme, qui est une violoniste remarquable, elle fait les deux. Elle fait la musique de chambre et de l'orchestre. Donc, elle est violon solo dans plusieurs grandes phalanges françaises. Voilà.
D'accord. J'ai travaillé il y a très longtemps avec un ancien violoncelliste professionnel qui avait joué, je vais le dire, à l'Orchestre d'Auvergne,
Oui.
Qui est un orchestre qui est quand même assez reconnu, qui a fait des tournées mondiales, etc. Et il m'avait dit les heures de travail qu'il a fait dans sa vie. pour arriver à devenir ce violoncelliste, ce violoniste, lui, il était pas violon, c'est le violon. Et ça m'avait rappelé quand même, son frère faisait du sport, du ski.
Ouais.
Et il m'a dit, on a eu la même vie en rigueur, en entraînement, etc. Lui sur les skis, moi sur mes cordes. C'est vrai ça?
Alors, c'est vrai. En fait, c'est des métiers qui sont complètement comparables par rapport à l'apprentissage de l'effort. Et voilà, quand ça marche pas, faut quand même continuer pour que ça marche mieux le lendemain. La musique, c'est un métier absolument fabuleux, c'est génial. Moi, s'il fallait recommencer, je recommencerais exactement la même chose. Mais c'est un métier où il y a jamais de pause. On n'a jamais de week-end, on n'a jamais de vacances. On peut pas partir une semaine sans l'instrument parce que sinon on perd trop. Donc, c'est un métier d'une rigueur absolue. C'en est même étourdissant. Aujourd'hui, j'ai 40 ans et on fait le constat tous les jours avec ma chère et tendre. En fait, on se repose jamais, jamais, jamais. Et quand on est petit, c'est vrai que c'est, bah voilà, quand les autres vont jouer chez les copains, bah nous on rentre et on travaille quoi.
T'as commencé la musique à quel âge ?
Moi, j'ai commencé tard. J'ai commencé, j'avais 8 ans. Mais dans des familles de musiciens, mes enfants, par exemple, j'ai deux filles qui ont 8 et 10 ans et elles font de la musique depuis qu'elles ont 3 ans quoi. Et c'est vrai qu'on avance très vite, plus on commence tôt, plus on avance vite.
D'accord. Donc après ton parcours à toi, c'est quoi ? On fait le conservatoire,
Conservatoire, donc moi j'ai un parcours relativement normal puisque je suis rentré au conservatoire à Paris tard, enfin pour la terminale, j'avais 16 ans. Il y a beaucoup de jeunes musiciens, enfin qui arrêtent plus tôt que ça, en fait, qui font le CNED et qui rentrent au conservatoire à 12 ans. Et...
Ouais.
Donc voilà, terminale à Paris avec le conservatoire en même temps, et puis ensuite le CNSM, donc qui est le conservatoire de Paris, et puis les concours internationaux, etc. Alors moi j'ai un parcours un peu bizarre parce que au lieu d'aller jusqu'au bout au CNSM, j'ai démissionné au bout d'un an parce que on m'empêchait de voyager. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que ce qu'on nous demande au conservatoire, c'est de finir le conservatoire puis de faire son métier. Et moi, je voulais commencer le métier plus tôt.
Ouais.
Donc, j'ai démissionné au bout du moment où j'ai assez de concerts pour vivre. J'avais 21 ans et je suis parti.
D'accord. Et alors, la course à pied, ça arrive à quel moment dans ta vie ?
Alors, j'étais très sportif. J'ai un papa qui est très sportif. Donc, j'ai fait beaucoup de tennis, rugby, etc. Donc, j'avais une bonne condition physique jusqu'à ce que je rentre au conservatoire, jusqu'à 16 ans. Et après, j'ai plus fait de sport jusqu'à 35 ans. Mais vraiment, zéro, rien. Et puis, un jour, j'ai des amis coureurs d'ultra trail qui m'ont dit « Mais toi, ça se voit, t'as un physique de sportif, tu dois faire du sport. » Alors, j'aurais dit « Moi, le seul sport qui m'intéresse, c'est de picoler avec les copains dans le bar. » Et ils m'ont dit, c'est super, tiens, voilà un dossard. Et ils m'ont inscrit au marathon du Médoc.
Oui, c'est pile poil ce qu'il fallait, quoi.
Ah ben, c'est ce qu'il fallait pour me remettre au sport. Et donc, le marathon du Médoc, l'histoire est vraie. Ils m'ont acheté une paire de chaussures et j'ai enlevé le petit clac là, de plastique. Là, j'ai enlevé sur la ligne de départ. Je n'avais pas couru depuis 20 ans. J'ai fait ce marathon en picolant comme un sourd. C'était magnifique, ambiance très sympathique et tout. Donc ça a été dur, 42 bandes quand on n'a pas fait de sport depuis 20 ans, c'était pas simple, mais l'ambiance et les ravitaux m'ont permis d'aller au bout, et je me suis dit c'est quand même sympa comme aventure. Et là, mes copains ultra-trailers m'ont dit écoute, si t'es capable de faire un marathon sans t'entraîner, tu vas t'entraîner un peu et on va t'inscrire au 100 km de Millau.
Wow.
Là, c'était plus la même histoire, c'était quelques mois plus tard. Je me suis un petit peu entraîné pour le coup, et j'ai fait les 100. Ça a été très dur, parce que physiquement, j'étais pas prêt. J'ai fini ça, je crois que j'ai mis 16 heures, un truc comme ça. Enfin, ça n'en finissait pas. Mais j'ai pris énormément de plaisir. Ça m'a vraiment intéressé, la démarche, justement, qui est très proche de celle de la musique, du travail sans arrêt, sans interruption, de se dire on lâche rien, on y va et on va y arriver, quoi. Donc, je me suis dit, si ça me plaît, c'est sur route, alors j'aime pas trop la route, faisons des trails. Et donc, on s'est inscrit à la Diagonale des Fous.
Waouh.
Voilà.
Tant qu'à faire.
J'aime pas les trucs à moitié faits, là. Donc là, pour le coup, pour s'inscrire à la Diag, il faut avoir des points. Pour avoir des points, il faut faire des courses. Donc, on a fait pas mal d'ultra. Je vois des trucs à la noix, mais marrant, quoi. On a fait, un très beau, on a fait les 85 de Florence, l'Eco Trail. Ça, c'est très, très beau. Et qui donnait justement les points qui me manquaient. Et on a fait 3-4 trucs comme ça. Et puis là, la Diag, ça a été un peu la révélation. Là, ça, c'est chouette.
Oui, j'imagine. De toute façon, tous ceux qui ont fait la Diagonale des Fous, ils disent que c'était chouette. Dur, mais chouette.
Ouais, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de. Bah, évidemment, il faut avoir la chance d'avoir le corps qui marche bien, de ne pas se blesser, de faire attention et tout. Mais comme le rythme imposé n'est pas énorme, si on veut, si on a un bon mental, déjà, on peut aller au bout, en fait. Moi, je l'ai vraiment pris comme une chouette balade. Alors, il faut courir, hein, faut jamais s'arrêter. On dort 1h50 en 3 jours. C'est beaucoup de courses, beaucoup d'efforts, un peu surhumain. Mais l'aventure, elle est tellement belle. C'est vraiment hyper beau.
Mais quand tu arrives au stade de la Redoute, là, t'as de la musique dans ta tête là qui joue là, tu te dis quoi, l'hymne à la joie, enfin ça, c'est quoi ton truc là?
Quand j'arrive, je suis dans un état. Ça faisait donc moi j'ai mis 61 heures, donc
Ouais.
c'est plutôt très lent. Hein, et je suis dans un état de fatigue que j'ai jamais expérimenté, ultime. Et en même temps, je suis à un moment de la journée parce que je suis arrivé le matin vers 11 heures. Je suis à un moment où j'allais super bien dans ma tête. C'était fini la déprime de la nuit, les envies de mettre fin à ces jours, tout ça. C'était passé. Donc, je suis dans un état d'euphorie absolue. Je suis très heureux. J'ai une grande fierté. C'est la première fois que sur un événement sportif, je suis fier. Je suis très fier d'avoir tenu le coup et d'être allé au bout. Et après, par contre, je crois que j'ai dormi pendant 13 heures d'affilée.
Ce qui est logique, parce que finalement, donc tu fais partie de ceux qui ont passé 2 nuits sur le parcours. Donc c'est vraiment long, en dormant pas beaucoup, ça s'arrête jamais, quoi.
Ben c'est même 3 nuits en fait. 61 heures, c'est il y a la première nuit qui est parce
Oui.
qu'on part à minuit, donc c'est même 3 nuits quoi. Il y a 3 nuits complètes. C'est hyper dur. Hein. Moi, je me suis endormi en courant quand même. Hein. À un moment, je me suis réveillé, je savais pas du tout où j'étais et j'étais en train de dormir, hein, mais je courais.
Alors ça me rappelle un truc que m'avait raconté Steven Yarick sur son vélo, où il me disait que quand il roulait 3 fois dans le gravier sur le bord de la route, ça veut dire qu'il s'arrête pour dormir 5 minutes. C'était son signe, tu sais, qu'il s'était endormi sur son vélo.
Ouais.
Et il le raconte dans un épisode, alors je sais plus si c'est Sport Nutrition ou Qui veut te tirer en deux, il dit, parce qu'il était capable de rouler jusqu'à 3 jours d'affilée sans dormir ou quoi que ce soit, tu sais. Et je lui dis, mais comment tu fais? Il dit, bah quand je me retrouve dans le gravier, quand ça fait le bruit du gravier sous mes roues, c'est que quand même là je suis trop sur le. C'est qu'il y a un truc, 3 fois d'affilée, c'est qu'il faut que je m'endorme. Donc je suis pas étonné de dire qu'au bout d'un moment, finalement, parce que tu as aussi un état d'hypnose, on en a parlé avec un invité il y a pas longtemps, c'est qu'à un moment donné, tu peux pas être concentré sur ce que tu fais, tu divagues dans tous les sens.
Ouais, mais il y a un truc dans la gestion de l'effort, mais un truc dans la gestion du sommeil. En fait, c'est ça que je trouve incroyable dans ces courses. C'est que c'est. Et puis, tout ça, c'est de la gestion mentale. Et puis, il y a du conscient et de l'inconscient. C'est-à-dire que moi, j'ai un souvenir très précis d'être passé par des phases de résilience consciente et inconsciente. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu te dis, mince, là, je suis au bout de ma vie, je vais tomber tellement je suis fatigué. Et puis, je sais pas combien de temps plus tard, peut-être 5 minutes, peut-être 1 heure, tu dis, ah, mais en fait, ça va super bien, c'est marrant, il y a tant de temps, à tel kilomètre, dans tel paysage, j'étais pas bien. Et t'as pas vu le truc venir, mais en fait, ton corps, il a fait un reset, il s'est régénéré. Et des phases parfaitement conscientes où t'es en train, tu sens chaque étape du truc qui est en train de se vivre. Oui, alors là, je vais pas bien, mais là, ça va un peu mieux, j'arrive à penser à ça, j'arrive à allonger ma foulée, je lâche les genoux en descente, je sais pas quoi. Et puis, tu vis cette régénérescence de ton corps, et qui passe, bien sûr, par c'est du mental, parce que de toute façon, le corps, au bout de 60 bornes, franchement, il est éclaté, hein.
Ça me fait penser, jeudi, je fais une petite bande-annonce publicitaire dans pas longtemps dans Sport et Nutrition, dans le podcast Sport et Nutrition. J'ai reçu un invité où on a parlé, où il dit que le critère des ultra-trailers pour ceux qui gagnent, c'est ceux qui gèrent mieux le sommeil, justement, où il explique ça en fait, et notamment quand la stratégie alimentaire aussi pour bien dormir. Parce que, y a des aliments qui t'aident à dormir, mieux récupérer, etc. Si tu t'endors rapidement, pas rapidement sur ces états-là. Donc, je le dis comme ça, parce que je sais pas quand est-ce que je vais publier, mais dans pas longtemps. Et on a parlé de ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet qui est pas assez abordé, en fait. Je sais qu'il y en a, par exemple, qui font la diagonale des fous, et qui disent, j'ai pas assez dormi, j'ai trop dormi, j'arrivais pas à m'endormir, tu vois, ces genres de choses-là. Et c'est vrai que cette notion du sommeil, parce qu'on parle beaucoup de la nutrition, etc., mais cette notion du sommeil, elle est aussi extrêmement importante quand on est sur ces distances où on passe 2, 3 jours sur les chemins, quoi.
Ah bah c'est vital et c'est vrai que les gens qui savent faire, les gens qui se penchent un peu sur la question, je pense qu'ils ont un avantage hyper important, enfin non négligeable, sur ceux qui savent pas faire. Parce que enfin, la gestion du sommeil, elle est primordiale, parce que c'est là qu'on se blesse, c'est là qu'on tombe. Enfin, moi j'ai vu des gens tomber devant moi, 2 fois à la diagonale, courir, ou même en discuter, et tout d'un coup tomber, mais pas parce qu'ils avaient trébuché, parce qu'ils se sont endormis. Et c'est vrai que bah, il faut mieux le gérer plutôt que le subir, quoi.
Alors, entre le moment où tu fais où tu ton marathon du Médoc là et le Diagonale, il y a combien de temps qui se passe? Quel temps, combien de temps?
Marathon du Médoc, c'est le 10 septembre 2016 et la Diagonale des Fous, c'est le 19 octobre 2019.
3 ans
Trois ans.
seulement.
Mais c'est bien, 3 ans, c'est long déjà, 3 ans.
Mais c'est super court. Enfin, il y en a plein de gens qui vont dire. Moi, j'ai fait un épisode avec Stéphane qui va se reconnaître, qui avait cet objectif de diagonale, etc. Et quand il disait il voulait le faire en 3-4 ans ou je sais pas quoi, il disait oh, mais c'est trop rapide et tout.
Ouais, alors moi je partage pas ça, parce que je pense vraiment que sur les. Ça dépend ce qu'on veut faire. Si jamais ton objectif c'est de faire la Diagonale des Fous en 30 heures, oui, ça se prépare pas en 3 ans, c'est une vie de travail. Si ton objectif c'est de finir l'UTMB, donc en 46 heures, oui, il vaut mieux avoir un petit peu plus de bouteilles. La Diagonale, c'est une autre histoire, il y a moins de notions de performance. Si ton objectif c'est de finir et pas de faire une performance de timing, je pense que ça suffit en fait. Ce qu'il faut, c'est que le corps soit capable d'encaisser en fait. C'est vraiment le seul truc, c'est que ça commence à être de la très longue distance, 170 bornes, et ce dénivelé qui est insupportable, enfin c'est quasiment 10 000, c'est à devenir fou. Hein. Il y a des jours, enfin, il y a des moments de la course où tu te dis mais c'est pas possible, et puis tu te rends compte que tu as fait. Je sais pas, en cumulé, t'en es que à 6 000 et il en reste 4. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, il faut juste que la tête soit vraiment très, très, très prête à dire, OK, les chiffres, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est de mettre un pied devant l'autre, quoi.
Et courir sur ce gros rocher qui est au milieu de l'océan, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça permet de le visiter, c'est pas mal.
Est-ce que tu vois un parallèle, ou est-ce que tu l'as fait en ce moment, disant que par rapport à la Diagonale des Fous, les trails, les ultras que tu as pu faire, la musique, ce que tu fais en musique, ton parcours en musique, etc., t'aide à faire ce genre de choses?
Évidemment. Alors, pour moi, c'est une évidence. Le métier de musicien, c'est un métier qui est vraiment merveilleux, mais c'est un métier qui est très difficile. Quand les gens viennent nous voir au concert, souvent, ils disent, ah, vous avez tellement de chance, c'est tellement beau. Oui, on a beaucoup de chance. Mais derrière, il y a un travail. Mais enfin, on n'imagine pas la masse de travail que ça représente. Voilà, pas de vacances, abnégation totale. On peut jouer 4 jours de suite en se sentant, enfin c'est que la sensation, mais en se sentant mauvais, en n'arrivant pas. Il faut continuer pour pouvoir assurer le concert du lendemain ou du jour d'après, quoi. Et puis il y a beaucoup de fatigue aussi. C'est-à-dire que
Oui.
quand on fait une tournée, enfin il y a des pays, par exemple la Chine, où quand on y va, c'est loin, il y a beaucoup de salles, il faut faire beaucoup de dates. Si on fait, je sais pas, tous les jours, il y a avion, concert, hôtel, avion, concert, hôtel, c'est beaucoup de fatigue physique. Donc il faut aussi apprendre à encaisser ça et à tenir le rythme, quoi.
Et tu sais, ce fameux violoniste, j'arrive pas à le dire, à qui j'ai travaillé, lui était en reconversion, parce que bon, ça s'était terminé, son aventure musicale. Il m'avait dit aussi qu'il avait des douleurs musculaires, tendineuses. Alors, dans les métiers classiques, on appelle ça des troubles musculo-squelettiques, donc qui sont des maladies. Vous avez
Ouais.
ça aussi en musique, non? Il y a des. Ou pas?
Il y a de la fatigue, il y a beaucoup de tendinite en fait, surtout sur les instruments, sur nos instruments, les instruments à cordes. Après, il faut, bah, voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins tendus, il y a des œuvres aussi qui demandent plus ou moins d'investissement, et il faut réussir à toujours avoir un bon équilibre. Enfin, c'est le corps, il se soigne en musique comme en sport, quoi. Faut aussi avoir un peu de chance, mais il faut faire super attention. Au lieu de les soigner, il vaut mieux les prévenir. C'est-à-dire qu'il faut faire attention quand on travaille à bien gérer les positions, à pas travailler dans le dur, à faire attention au froid, à faire attention au chaud. Enfin, c'est des corps de sportifs en fait, hein.
Ce que j'allais te dire, c'est qu'en fait, tu parles t'es un athlète de haut niveau de la musique. Enfin, un musicien, c'est un athlète de haut niveau, quoi.
Eh bien, franchement, c'est exactement ça. Quand on voit, ça dépend des carrières, mais voilà, des gens qui font 120, 130 concerts par an, avec principalement des concertos, beaucoup de voyages et tout, c'est des vies d'athlètes. Hein. Ils font attention à tout, à ce qu'ils mangent. Puis nous, il y a beaucoup de décalage horaire parce qu'on passe nos temps dans les avions. Donc, faut faire attention à tout. Faut vivre. Hein. Moi, je suis plutôt du style, on est des excès raisonnés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'excès parce qu'il y a beaucoup de fêtes, beaucoup de dîners, beaucoup de travail, beaucoup de musique, beaucoup de voyages. Mais il y a aussi, voilà, un peu de raison. On fait attention à ce qu'on fait, quoi.
Pour que les gens se rendent bien compte, c'est combien d'heures de musique par jour?
Alors, ça dépend complètement, et puis je pense que c'est une question qui n'est pas la même à 20 ans qu'à 40. C'est-à-dire qu'à 20 ans, mine de rien, on fait 6-8 heures de musique tous les jours, parce qu'on a beaucoup de répertoires à monter, on a beaucoup de travail, on n'est pas du tout des musiciens finis. À 40, c'est plus par période, c'est-à-dire que quand on part en tournée, bah voilà, on fait vite voilà, 2 heures de concert, plus 3 heures de répète, plus 1 heure de chauffe. Et puis bah là, en ce moment, moi, par exemple, je prépare JCPLC2, donc quand j'arrive à faire 1 heure tous les 2 jours, je suis content. Mais ça veut dire que je perds. Donc là, j'ai un concert dans 10 jours, il va falloir que je travaille énormément d'ici 3-4 jours pour me remettre. Donc ça va être 4-5 heures quoi, par jour.
C'est là aussi où il y a une discipline qui est énorme. Et ça me fait penser, j'ai écouté il n'y a pas longtemps l'autoportrait de l'auteur en coureur de fond, tu sais,
Oui, de Murakami, bien sûr.
Murakami, qui est un livre où il décrit sa manière de courir et sa discipline, notamment l'histoire de le coureur qui ne s'arrête jamais de courir, qui ne marchera jamais, comme il dit, qui sera l'épitaphe sur sa tombe, qui est quand même, qui montre quand même aussi un mode de pensée, mais qu'on retrouve. Les points communs entre l'artiste, lui l'écrivain qui dit tous les jours écrire, écrire, toi tu dis jouer, 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 jouer et tout, le coureur qui court, 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 etc. C'est vraiment, les parallèles sont vraiment très forts entre l'artiste et la musique
Mais
et le sport.
ouais, mais en fait, je pense qu'il y a quand même un truc de volonté. Mais il marche chez beaucoup de gens. Hein. Moi, je pense aux gens où les métiers sont très chronophages. Enfin, les cuisiniers, les boulangers, qui sont des métiers en fait où il y a une rigueur et une intensité qui sont assez délirantes. Et oui, alors autoportrait d'un auteur coureur. Moi, j'ai adoré ce livre. Je trouve ça génial. Après, là, dans son cas, je pense qu'il y a aussi une question de culture, c'est-à-dire que il est japonais et c'est cette Je pense que la culture japonaise aussi est une culture de l'effort,
Ouais.
continue beaucoup plus que la culture occidentale. Et ce qu'il a fait, donc c'est 10 km par jour, 6 jours sur 7, pendant un an, là, et enfin qu'il a tenu beaucoup plus longtemps d'ailleurs. Moi j'ai un copain, violoncelliste, qui court très très bien pour le coup, lui, c'est un merveilleux coureur. Il s'y est tenu cette année en 2021. Il a fait donc ses 3 650 km dans l'année, tous les jours 10. Et donc les rares fois où il avait un concert et qu'il pouvait pas, et voilà, il en a fait 20 le lendemain. Et en fait, en termes d'assiduité, c'est incroyable, c'est hyper dur à tenir, c'est très très dur. Donc moi, je félicite les gens qui ont cette capacité, parce que j'en suis bien incapable.
Alors, moi, je ne cours pas tous les jours. Moi, je cours tous les jours, pardon, mais pas 10 km. Même si au mois de janvier, j'en ai couru beaucoup plus certains jours et ça montait beaucoup plus haut que ça. Mais j'ai un épisode et les gens qui se souviennent, mais alors ceux qui s'en souviennent pas, je mettrai rien dans les notes d'épisode avec Phil Ufo sur Instagram, Phil Bélard, qui lui fait aussi 10 km par jour minimum, mais je crois qu'il en est à 1000. Ouais, il va me le rappeler, mais 1060 jours, un truc comme ça, tu vois, et tout. Il est parti sur un projet de 3 ans, tu vois, ou un truc comme ça. Il y rajoutait aussi l'entraînement des super-héros, tu vois, qu'il y a dans les mangas, etc. Il y a des trucs qu'il a un petit peu arrêté. Puis des fois, il met de l'ultra au milieu, tu vois. Enfin, il met tout un tas de trucs comme ça. Et ce qui est vraiment intéressant, hein, c'est vrai qu'il y a la volonté, parce que des fois, il va courir. Et moi, je l'ai fait. Hein. L'autre jour, je suis allé courir à 22 h et quelques. Tu vois, pour dire, il faut que je cours ma petite distance d'aujourd'hui. Des fois, il va courir à 22 h, 23 h aussi, tu vois. Il y a cet espoir de dire aussi, on va pas lâcher. Et qui est vraiment une discipline. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, c'est possible de le faire. Tu vois, tu dis, t'as un ami qui le fait et il y a des gens qui pensent qu'on peut pas le faire. Et en fait, on peut le faire. C'est juste que je pense pas qu'il... Je pense qu'il, comment dire, il faut le faire avec faire attention, comme tu disais aussi, à la gestion de son corps, de son énergie, etc. Je me dis qu'il y a des fois, quand même, ça doit être dur de dire jouer parce que ça doit être fatigant, faire un concert.
Bah, faire un concert, ça dépend ce qu'on joue, mais oui, c'est un investissement d'énergie physique, émotionnelle. C'est jamais, c'est enfin, c'est moi j'adore, c'est mon métier, j'aime ça. Hein. Mais voilà, c'est pas tous les jours simple. Il faut aller chercher des ressources pour donner le maximum. Et puis le public, c'est exigeant d'avoir un public en fait. C'est exigeant parce que le public, qui connaissent ou qui connaissent pas, il y a un truc qui est commun chez tout le monde, c'est que les pertes d'énergie, les pertes d'investissement, ils les sentent tout de suite. Donc en fait, ils décrochent. Donc nous, notre mission, c'est de faire que le public décroche jamais, qu'il soit captivé par ce qu'on leur raconte avec nos instruments. Et donc oui, il faut aller chercher de l'énergie partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais comme le coureur. Mais pour revenir sur ce que tu disais, c'est-à-dire que les gens se disent que c'est impossible. Enfin, ça, c'est l'histoire de l'homme avec un grand H. C'est-à-dire que les gens passent leur temps à se dire que c'est impossible, tout le temps. Et nous, enfin pour la course dont on parlera tout à l'heure, c'est ça qui nous a motivés. Moi, plus les gens me disaient que c'était impossible, plus j'avais envie de dire, mais en fait, peut-être que c'est impossible, mais on n'a qu'à essayer, on verra. Autant on sait que si on saute du haut de la Tour Eiffel, on va se cracher, on ne va pas arriver vivant, ça c'est sûr, c'est impossible. Autant faire l'effort de courir une longue distance, tant qu'on n'a pas essayé, on sait rien, quoi. Il faut essayer.
Bon, alors, on a parlé de course, on a parlé de musique.
Ouais.
Et maintenant, c'est le moment de dire comment les deux, à un moment donné, ils se rencontrent.
Alors, je fais une petite remise dans le contexte.
Ah, mais vas-y, fais la remise en contexte. On a le temps, tu sais, si on prend le temps et tout, on n'est pas sur TikTok en 15 secondes, on a le temps.
Alors, la remise en contexte, donc, on est en avril 2021. Ça fait donc, on est en tout début du troisième confinement. Et nous, les artistes, ça fait un an et deux mois qu'on n'a pas joué. Ça fait, on est quasiment à 14 mois où on a été privé des scènes. Il commence à se déclencher un truc en France, enfin un peu partout dans le monde, mais en France particulièrement, où ça commence à râler fort contre le gouvernement, contre tout le monde. Il y a les premières occupations des théâtres, etc. Donc le grand message, c'est un espèce de... Je veux pas faire de bah, c'est un peu les gilets jaunes de la culture, voilà, on lève le poing en disant « c'est pas bien, pourquoi vous avez fermé une salle de concert ?» Moi, je suis violoncelliste, c'est mon métier, et en plus, mon métier, c'est d'organiser des concerts partout dans le monde. Donc non seulement on m'a fermé les salles de concert, mais en plus, on m'a fermé les aéroports, on m'a fermé les entrées dans les pays, on m'a fermé les visas. Moi, je suis à l'arrêt, j'ai perdu entre 90 et 95% de mon activité et de mon chiffre d'affaires. Je suis pas intermittent, je suis pas musicien d'orchestre, je suis pas prof. Je suis purement entrepreneur dans l'âme. Donc, mes revenus sont passés de X à zéro. Je gagne plus d'argent. C'est pas la période la plus agréable de ma vie. À côté de ça, je passe beaucoup de temps à la maison, ce qui est rare. On s'éclate avec mes filles. On va justement courir en forêt, faire du vélo. Je passe beaucoup de temps avec ma femme. Il y a un petit côté un peu magique. On est très chanceux. Hein. On est bien, quoi. On est heureux. Bon, et ça commence quand même à nous titiller d'avoir envie de reprendre l'avion, d'avoir envie de reprendre le train, d'avoir envie d'aller faire des concerts. Et en même temps, il y a cette espèce de grand râlage national qui s'installe. Et je commence, moi, à en parler avec beaucoup d'artistes en disant, vous savez, il faut qu'on arrête de râler parce que les gens, ils n'ont pas envie d'aller voir des râleurs. C'est-à-dire que quand ça va reprendre, les gens, ils n'ont pas envie d'aller voir des gens qui ont pleurniché pendant deux ans, là. Donc, il faut qu'on va parler de la culture, mais avec le sourire, en disant pourquoi on a envie de reprendre, pourquoi on aime l'art, pourquoi on aime le spectacle vivant, l'importance que ça a, etc. Ça prend pas vraiment en histoire. Il y a beaucoup de gens qui me répondent « Ouais, c'est bien, c'est super, mais c'est bien gentil, le monde des bisounours, mais nous, on a faim, on a envie de bouffer, et puis ce gouvernement, c'est des connards. » Bref, ça commence à m'agacer un peu.
Toi qui es joyeux, positif dans l'âme, d'un coup, t'as
des... C'est ça, c'est-à-dire que, évidemment, moi, quand on me pose la question « Est-ce qu'on a eu raison de fermer les salles de concert ?» Ma réponse est claire, c'est non, on n'a pas eu raison. Maintenant, il fallait bien faire quelque chose. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, que ce soit bien, pas bien, est-ce que c'est vraiment à moi ou à nous, les artistes, de choisir? Il y a eu plein d'essais qui sont faits, il y a eu des choses positives, des choses moins, et puis c'est comme ça. Donc, je me dis, tiens, on va essayer de parler de la culture, mais avec le plaisir. Le seul but du jeu, c'est d'être tous les jours à la radio, à la télé, pour avoir un vrai impact médiatique, mais de dire tous les jours, vous savez, on parle pas de l'arrêt de la culture, on parle de la reprise de la culture. Pourquoi on a envie de reprendre? L'importance du spectacle vivant, le lien social, évidemment, la beauté de notre métier, etc. Et je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'assez impactant qui va interpeller les gens et qui va nous permettre de faire une action positive? Je voulais faire une révolte positive, en fait. Et je me dis, le seul truc que je sais faire, à part être un bon papa et jouer du violoncelle, c'est courir. Ça, non pas que je le fasse bien, mais je le fais pas trop mal. Et en réfléchissant à quelle course on pouvait faire, je pense à un événement qu'on avait fait avec justement Julien Decoing, qui est un merveilleux violoncelliste et la personne dont on parlait tout à l'heure, qui a fait 10 par jour pendant un an. On s'est dit, tiens, on va aller voir nos grands-parents. Et ils habitent à Auxerre, nos grands-parents.
D'accord.
Et donc, on a fait Paris-Auxerre en courant. C'était marrant, c'était sympa.
C'est pas... Il y a combien de kilomètres? 300
Non, un peu moins. On a fait 100... Je sais plus combien c'était. 140 ou 150, je crois.
Vous avez trouvé des chemins pour y aller?
Ouais, justement, on a trouvé des chemins. On a pas mal... on a étudié pas mal le truc sur les sites, calcul itinéraire, etc. Et puis c'était très sympa, c'était fatigant, et puis il faisait très froid, tout s'est pas bien passé, mais c'était une aventure vraiment marrante. Et puis quand on a raconté, même quand j'ai appelé mes parents en disant, vous savez, je suis allé voir mamie, tiens, on y allait en courant, ils pensaient que je blaguais, mais pas du tout. C'était rigolo, on a mis 24 heures ou 28 heures, un truc comme ça. Voilà, mais sympa quoi. Et puis, donc, dans ce message du gouvernement qui était arrête, le seul truc où vraiment j'étais pas d'accord, et là pour le coup j'ai beaucoup râlé, c'est ce message de arrêter de, il faut couper les ponts intergénérationnels, arrêter d'aller voir vos grands-parents, et vous allez les faire mourir, transmettre le virus, tout ça, enfin, ouais, n'importe quoi. Donc ça, je me suis dit, ça c'est pas bien, ça on va casser ce truc-là. Donc moi, je vais dire officiellement, tiens, je vais aller embrasser mes parents. Sauf que mes parents habitent Aix-en-Provence et moi j'habite dans le sud de Paris. Donc ça fait 900 km et je me suis dit bah tiens je vais y aller en courant. Et voilà. Oui bah il faut bien s'ennuyer un peu. Hein.
Bon écoute et t'es pas le premier à me le faire le coup. Hein. J'ai eu un certain Iliès qui va que tout le monde va reconnaître dans le podcast qui a fait un Paris-Marseille aussi pareil. Hein. Ils sont partis comme ça l'été dernier en faisant un Paris-Marseille en courant en disant allez c'est parti on fait 75 bandes par jour et en 11 jours on y est ou en 12 jours on y est. Ouais. Donc t'es pas le premier à me dire je pars on part comme ça en courant. Hein.
Ah bon. Mais ils l'ont fait ou pas?
Ils l'ont fait. Mais tu sais qu'il a fait pire. Hein. Là il vient de faire la Thaïlande. Il a fait 1000 bornes en Thaïlande. Il s'est rendu compte qu'il avait oublié d'aller jusqu'à Koh Lanta, jusqu'au bout du truc. Alors il a rajouté 42 bornes pour y arriver. Mais il l'a fait. Et en plus il l'a fait avec des gens. Il nous a raconté ça où qu'il avait pas. Ça faisait un bout de temps qu'ils n'avaient pas couru. Tu sais que c'était pas vraiment entraîné, etc. Ce qui montre d'ailleurs la capacité du corps. Tu parlais tout à l'heure. T'as repris du sport. Ça montre. C'est encore des exemples qui montrent la capacité du corps finalement à faire des choses et que le corps est capable de faire des choses même si finalement il est peut-être pas prêt physiquement par moment de le faire, mais que il y a d'autres choses qui jouent.
Mais bien sûr, évidemment. Mais il faudra que tu me mettes en contact parce que c'est rigolo cette histoire. Parce que c'est vraiment nous, c'est ça qu'on a fait. On a fait 900 bornes en 13 jours. C'est
ouais,
voilà,
ouais.
Marseille, enfin Paris, Aix-en-Provence.
Je t'enverrai le lien. Lui, il a fini au vélodrome. Hein. Ils se sont amusés avec les gamins devant le vélodrome, etc. Mais je partagerai le lien parce que et c'est vrai, Iliès. Alors, il y a juste un truc, je le dis, c'est que Iliès, il parle tellement vite. Il parle. J'ai pas le temps d'en placer une, mais il raconte tout son projet d'une manière qui est vraiment qui partage. Et là, c'est vrai qu'il a, il est en Thaïlande. Il a fait 1000 bornes en courant tous les jours comme ça pendant et tout. Et c'est un sacré personnage. Donc je t'enverrai. Mais il a fait d'autres trucs aussi. Si tu veux d'autres destinations, parce qu'il a fait Paris Deauville, il a fait Paris la Bretagne ou je sais pas quoi. Ils ont fait la Bretagne le Pays Basque. Tu vois, si t'as besoin de faire d'autres destinations après les années suivantes. Fais attention, Iliès, il peut t'embarquer dans d'autres drôles d'aventures, mais je te donnerai le contact si tu veux.
Eh ben avec plaisir, génial.
Donc, alors, tu te dis, maintenant je vais voir mes parents à Aix-en-Provence.
Exactement. Donc, on commence un peu à étudier la faisabilité du projet et je me dis, bah, donc l'histoire, c'est de raconter qu'on fait ça pour la culture, pour parler de la culture de façon positive. Donc, on s'arrête partout, on propose aux villes des concerts et tout. Donc là, à ce moment-là, quand je monte ce projet, on est en janvier et on est sorti du deuxième confinement.
Ouais.
Donc, on peut faire des concerts. Je raconte ça à mes copains ultra-trailers qui me disent, écoute, d'habitude, tes conneries, on aime bien, mais là, 900 bornes en 13 jours, c'est débile, c'est pas possible, tu vas te flinguer les genoux, et en plus, voilà, c'est trop, quoi. Donc, au lieu d'appeler ça « on court pour la culture », je leur dis « très bien, pas de problème ». J'appelle le truc « je cours pour la culture », je balance le dossier de presse, ça fait très très vite des petits, il y a BFM qui vient en premier, puis voilà, France 2, France 3, Canal Plus Sport, etc. Et il réalise que je vais vraiment le faire. Et donc, évidemment, ni une ni deux, il est hors de question que je parte faire un truc encore plus fou que ce qu'on a fait jusqu'à présent sans eux. Et donc, tout le monde se dit, bah, viens, on y va, on vient avec toi. Et on se retrouve à faire cette aventure. On est six, quatre coureurs, et donc des habitués des ultra-trails, et deux cyclistes, dont un copain violoniste qui a eu un accident de ski quand il a 18 ans et qui a une paraplégie incomplète. Et donc lui voit le truc passer dans la presse et il m'appelle tout de suite, il me dit c'est hors de question, moi je veux venir avec toi, je viens. Donc je lui dis bah c'est super, mais je te rappelle que t'as pas de jambes, donc ça va être compliqué ton histoire. Et il me dit mais moi je peux faire du vélo, je peux même faire du vélo de valide. Donc je dis bah ok super, mais c'est 900 bornes, ça va être tendu. Et il est venu, il a été absolument exemplaire, extraordinaire. Il a envoyé les 900 bornes avec une facilité absolue et une volonté surtout, parce que c'est un garçon qui a beaucoup de volonté, qui s'appelle Benjamin Ducasse. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est né. Sauf qu'entre temps, le 31 mars, il y a eu l'annonce du troisième confinement, donc quelques jours de notre départ, avec fermeture des villes et restriction géographique de 10 km autour de chez soi.
Ouais.
Donc ça nous a pas arrangé.
C'est pas facile hein, pour faire 900 bornes quand tu veux pas partir de chez toi.
Ouais, c'est pas simple. Alors 900 bornes autour de son pâté de maison, ça fait un peu long. Donc, on a monté en place une équipe, une prod télé, qui nous a donné la légitimité en fait de pouvoir quitter parce qu'on était en travail. On avait tous un contrat de travail pour la réalisation d'un documentaire.
Ah, les malins.
Et donc, on a traversé la France avec une prod télé qui nous a suivis, un documentaire qui va sortir bientôt, qui va être très beau, qui s'appelle justement « Je cours pour la culture ».
Ouais.
Et je pourrais t'envoyer le teaser là qui est prêt, enfin ça donne envie quoi, ça donne envie de courir, ça donne envie de prendre le large.
On pourra le voir sur où ?
Je te l'annoncerai dans quelques. On est en phase de avec le diffuseur là.
D'accord.
Et voilà, ça va être normalement à partir d'avril, ce sera accessible.
D'accord, ça marche.
Voilà. Et voilà, je sais plus, on a fait des tiroirs, donc je sais plus où on en est.
Ben non, oui, mais vous avez trouvé donc l'astuce d'être suivi par une prod télé, d'avoir un documentaire sur cette aventure. Non, mais c'est dingue, en fait, l'histoire, parce que tu pars d'une idée comme ça, qu'on qualifierait un peu l'idée à la con.
Oui, très bien, ça me va.
Hein? Alors, une première idée à la con, dire, bon, je vais voir papy, je vais voir mes grands-parents, ça, c'est une première idée. Maintenant, je vais aller voir mes parents, c'est encore plus loin, c'est une idée. Je commence à me monter un peu des gens autour de moi, et puis finalement, la télé commence à s'en emparer. Parce que là, en fait, en faisant mes recherches, je suis tombé sur un article de France Inter qui parlait de cette aventure. Donc, effectivement, d'un coup, t'as été vu, t'as la prod télé qui fait un documentaire, etc. On va pouvoir voir ça. Enfin, le truc de montrer la culture, c'est au-dessus de ce que tu avais pensé, non ?
Ah bah, c'est allé beaucoup plus loin. On a travaillé comme des fous. En fait, à partir du moment où on s'est dit on le fait, moi c'est mon métier, je suis producteur, donc on a fait comme si on montait un festival l'Asie, quoi. Donc on a vraiment organisé ça en travaillant énormément. C'est vrai que le fait que la presse s'en empare, c'est allé vite. C'est-à-dire qu'on a eu un partenariat avec Radio France, avec France Bleu, donc voilà, France Info, France Inter, France Musique, etc. Toutes les France Bleu par région, France 2, France 3, Canal et tout ça. Et en fait, ce qui brille, appelant à briller encore plus, les gens se sont vraiment emparés et appropriés le projet.
Ouais.
Ensuite, à un moment, on appelait les villes, on leur a dit, voilà, nous, on passe, donc l'équipe, on était 11, 4 coureurs, 2 cyclistes, 2 prods et 3 télés. Voilà, on est 11, il faut nous héberger, il faut nous nourrir, il faut nous accompagner. Et en fait, donc on a, à part dans une ville, on n'a jamais payé le moindre hôtel, on s'est fait accueillir partout, on n'a jamais payé la moindre bouffe. On a été très suivis. En fait, les gens étaient heureux d'avoir un projet de lien social parce que on a couru pour la culture, certes, on a couru pour parler de la culture, mais c'est surtout le lien social qui a été retrouvé. C'est-à-dire que les gens étaient immensément heureux de nous croiser, de nous accueillir, de nous. Et puis on n'avait pas vraiment le droit, mais on a fait quand même 5 concerts sur le parcours. Nous, on ne voulait pas être en insurrection. C'était très important pour nous de ne pas être en insurrection. On ne voulait pas que les mairies se mettent en danger en nous accueillant et en bravant les interdits. Donc on a prévenu tout le monde en disant voilà, on sera là, on a nos instruments, on peut faire venir nos instrumentistes. Si vous voulez faire un concert, nous, on est prêts. Donc, tout le monde s'est arrangé plus ou moins pour organiser un moment de recueillement, un moment solidaire, des choses qui n'étaient autres que des concerts. Hein.
Ouais, il a fallu trouver une excuse dans la loi, mais en fait, c'est ça, c'est que ce que tu es en train d'expliquer, c'est que finalement, à chaque fois où vous avez trouvé un biais, par rapport à une situation qui t'empêche normalement de le faire, il y a un petit bout de biais, une exploitation d'un truc qui permet de dire bah, on va le faire quand même d'une autre manière, mais on va le faire.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a la première ville, par exemple, où on s'est arrêté, la mairie a dit, voilà, attention, on n'a pas le droit de faire des réunions, donc on vous demande de ne pas faire de concert. Ce qu'on a compris très bien, et on n'a pas voulu le braver, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un concert privé, donc il y avait 10 personnes de la même famille, mais voilà, il y a quand même eu de la musique. Moi, c'était important pour moi que le premier jour, il y ait de la musique. À Valence, on a organisé avec la cathédrale Saint-Apollinaire. Donc évidemment, il y avait beaucoup de place, donc distanciation sociale totalement respectée. Il y avait une centaine de personnes dans la cathédrale qui est immense, et c'était un moment de recueillement. Voilà, dans la ville de Cavaillon aussi, on avait un concert pour les employés de la mairie, donc il y avait, je sais pas, 30 personnes dans une très grande salle, donc il n'y avait pas de problème. Mais voilà, c'était un vrai concert avec de la lumière, projo, un apéro à la fin. Enfin, c'est un moment de lien social, un moment où on a pu échanger, qu'on a pu se croiser. Et en fait, les gens n'en pouvaient plus. C'était incroyable. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on est arrivé, on était une bouffée d'oxygène. Les corps étaient morts. Enfin, au bout de 600 km, les corps étaient dans un état lamentable. Et en fait, les 300 derniers, on les a même pas vus passer parce que entre ça et la presse qui relayait, les gens nous attendaient. Donc on était à un moment où officiellement on n'avait pas le droit de se déplacer, et pourtant toutes les villes nous mettaient à disposition la police municipale, les motards, l'hébergement, etc. C'était fou en fait, c'était fou.
Puis d'autre côté, celui qui voudrait vous interdire de faire ça, il aurait vraiment passé pour vraiment un sale con, quoi.
Ben oui, et en fait, vraiment personne, c'est-à-dire que c'était au-delà de ne pas interdire, c'est-à-dire que les gens étaient immensément, les maires de toutes les villes ou tous les villages par lesquels on passait étaient sur le perron au bord de la mairie, ils nous attendaient avec impatience en fait. Il y a des journées qui sont passées plus ou moins bien, il y a des jours de course qui ont été un peu durs, et les gens nous attendaient parfois 3 heures dans le froid jusqu'à ce qu'on arrive, quoi. Ils ont tous, en fait, ils ont redoublé d'imagination aussi pour trouver comment nous accueillir et manifester le soutien à l'action bienveillante, parce que c'était vraiment ça le truc. C'était on a couru avec le sourire, même quand c'était pas marrant. Et on a vraiment, il n'y a jamais eu la moindre critique. Enfin, sur le site, il y a toutes les émissions de radio. Enfin, il y en a pas toutes, mais il y en a au moins, je sais pas, 40 émissions de radio, de télé, tout. Jamais on a râlé, jamais. Et je crois que c'est, on avait besoin de ça aussi, parce que là ça recommence, mais ça râlait trop, quoi.
Ouais, et tu le dis parce que vous avez eu comme marraine Nathalie Dessay, donc qui est une star, une grande star.
Nathalie Dessay, Vianney, le chanteur, ouais. Marc Jolivet, l'humoriste, Andrea Ferréol, la comédienne. On a eu quatre vraiment parrains de haute volée, et ils ont tous super bien joué le jeu, ils ont tous été super attentifs, participé, fait beaucoup de médias aussi avec nous. Voilà, Vianney qui a en parlé sur le plateau de Vivement Dimanche chez Drucker, qui a fait un podcast. À un moment, il a fait un concert live en plein confinement chez lui, et il a fait 1 heure de truc, il a pris 4 minutes pour parler que du projet. Donc c'est super, parce que c'était leur implication à eux pour nous aider à avancer, médiatiser, en parler et tout.
Ouais, et puis ils partageaient aussi le côté positif des choses, en fait. Quand tu vois les déclarations de Nathalie Dessay, etc., c'est vraiment sur le côté positif qui est installé, sur cette dynamique positive.
Mais c'est tous, c'est vraiment que pour ça qu'ils sont venus. C'est-à-dire qu'en fait, comme tous ces gens qui sont des superstars, ils sont hyper sollicités pour tous les projets, c'est normal. Et il y a eu beaucoup de projets qui ont essayé de naître pendant le confinement, et ce qui leur a tous plu, c'est le fait qu'on allait justement parler avec le sourire. C'est une notion vachement importante, je trouve.
Et donc cette saison 1, on va dire, finalement,
ouais,
c'était ça, 1. On peut appeler ça une saison 1 de...
La saison 1, la saison, d'ailleurs l'affiche de la deuxième édition, je sais pas si tu l'as vu, ça s'appelle saison 2, quoi.
Ouais, je suis sur le site, en fait, je suis en train de regarder le site. Tu le vois comme quoi, en fait, comme une sorte de festival itinérant, sportif, musical, comment tu vois ça, les choses, en fait?
Alors la première édition, c'était une grande course pour défendre le spectacle vivant, parce qu'il y a un autre truc dont on n'a pas encore parlé et qui pour moi était très important, c'est-à-dire que on a commencé à nous demander beaucoup de vidéos, énormément. Voilà, moi j'ai enregistré au départ, je sais pas, le premier mois j'ai fait 10 vidéos qui sont parties pour les salles de concert dont les concerts ont été annulés, donc c'est parti en Inde, c'est parti au Brésil, c'est parti en Arabie Saoudite, c'est parti au Qatar, au Bahreïn, etc. Et donc c'était des commandes, donc ce qui nous permettait aussi de gagner un tout petit peu notre croûte. On faisait les vidéos. Alors nous, on a fait des. Je voulais pas faire des trucs devant juste l'ordinateur. On a fait des vraies vidéos montées, etc. Mais en fait, c'est pas ça le spectacle vivant. C'est-à-dire que les gens étaient contents. Ils disaient, on va en faire d'autres, on va en faire d'autres. À un bout d'un moment, moi j'ai dit, mais stop. On va pas transformer notre métier à jouer devant notre télé ou devant un écran. Enfin, ouais. L'intensité est pas la même. C'est pas du tout pareil, quoi. Donc je voulais vraiment qu'on parle du spectacle vivant et qu'on parle de tous les arts. Donc la première course, c'était vraiment pas une défense, parce que c'est pas le bon mot, mais plutôt un appel à réflexion sur l'importance du spectacle vivant. Et on voulait défendre aussi la culture en général, et pas que la musique, parce que c'est mon métier. Donc on a proposé de pouvoir soutenir 5 univers culturels. Donc la musique de chambre, la musique lyrique, le théâtre, les arts visuels et le spectacle musical. Donc il y a eu une plateforme avec des appels à dons où les gens pouvaient soutenir le projet qu'ils voulaient. Donc c'était vraiment du crowdfunding à coût de 5, 10, 15 euros. Et finalement, ces 5 univers avaient tous un projet spécial. Et donc on les a aidés à avancer tout le temps. Et donc cette année, il n'y a plus de raison de faire un jeu court pour la culture, puisque tout est reparti, enfin, les salles de concert sont ouvertes, ouais. J'ai presque envie de dire que tout va bien, même si la fréquentation des concerts a un tout petit peu baissé. Donc il faut faire attention, il faut que les gens, nous on a couru pour la culture, maintenant il faut que les gens courent pour
dans les salles,
l'abonnement, les salles de concert, etc. Et à la base, on n'avait pas pensé qu'on allait en faire presque une marque de cette histoire de Je cours pour la culture, mais en fait ça a été tellement plaisant, ça a été tellement incroyable comme aventure, déjà dans le défi, parce que aujourd'hui ça nous paraît évident, mais quand on est parti, vraiment, on ne savait pas si on allait y arriver. C'est-à-dire que 900 km en 13 jours, pour le coup, c'est un défi physique exceptionnel. Enfin, on est allé chercher loin. Hein. Il y a eu des journées. Aujourd'hui, on n'en parle que avec le sourire, mais il y a eu des journées de larmes et de douleurs. C'est inracontable. Hein. Donc, aujourd'hui, on sait que c'est possible, mais on ne sait pas si on va être capable de réitérer l'exploit. Mais il faut donner du sens à tout ça. Donc, on transforme cette course en un festival itinérant. Donc, on refait Montgeron, enfin, donc, sud de Paris, Aix-en-Provence, en courant, en raccourcissant un tout petit peu les étapes. Là, on fait 50 km par jour.
Oui, je vois ça, oui. C'est des étapes qui sont plus courtes. Il y en a même une qui fait 32, il y en a une qui fait 42, 22 même seulement.
Alors, celle de 22, c'est parce qu'elle est le lendemain d'un jour, on ne fait pas de concert, on fait une dégustation de vin.
Ah!
J'ai peur qu'on se réveille pas à 7 heures, mais à 9 heures, et avec les jambes un peu dans le pâté quand même. C'est à Crozes-Hermitage. Donc, enfin, la moyenne cette année, c'est 50.
D'accord.
Donc, c'est un peu plus. Alors, ça reste des distances conséquentes, hein, mais mine de rien, c'est pour le corps, c'est quand même beaucoup moins éprouvant que de faire 70-80 tous les jours. Donc, ça nous fait un total de 660 km en 14 jours avec 12 concerts sur la route. Donc, partout où on s'arrête, on joue. Le credo, c'est la musique pour tous et partout. C'est-à-dire qu'on va proposer des concerts dans les grandes villes, Paris, Aix, Lyon, Le Creusot, mais aussi dans les tout petits villages, Viviers, Péronne, Vézelay. On va faire des concerts dans ces villes. Enfin, ce sera les mêmes concerts d'ailleurs. Il n'y a pas de grande ville, grand concert, petite ville, petit concert. On fait de la musique de chambre partout. Et je pense que ça va être un événement assez, assez incroyable.
Vous partez à combien là ?
Alors, je ne sais toujours pas. J'ai demandé à tout le monde de rendre sa copie pour le 23 mars. Ce qui est sûr, c'est qu'on est trois coureurs à faire l'intégrale, à courir les 660 km. Il y aura certainement les deux cyclistes de l'année dernière. Et il y a déjà à peu près une dizaine de coureurs qui se sont engagés à faire au moins 4 ou 5 étapes. Certains au début, certains à la fin, certains au milieu. Ça dépend en fait où ils habitent. Il y a pas mal de coureurs de Lyon qui vont venir, des coureurs d'Aix, etc.
D'accord. Voilà.
Le jour du départ, mon estimation, mais je pense que je suis un petit peu en dessous, je pense qu'on sera environ 1000. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, de musiciens. Déjà l'année dernière, en plein confinement, on était 300. Hein. Donc c'est pour le coup là je reçois tous les jours des dizaines de messages de gens qui me disent mais bien sûr on sera là. Voilà, il va y avoir une forte communauté artistique et sportive qui sera présente pour ce départ.
Donc vous partez c'est une sorte de départ symbolique, je veux dire les 1000 au départ là, ils vont faire quoi parce que déjà la première étape c'est 53 bornes. Donc déjà ça va.
Je sais qu'on, j'en ai déjà, on est déjà à peu près 25 à faire la première étape en entier.
Ouais.
Donc les 53. Mais je pense que sur les 1000, il y aura beaucoup de familles aussi. Donc des gens qui vont faire entre 5 et 7 km. À 7 km, il y a le premier point de ravitaillement. Donc je pense qu'il y aura beaucoup de familles qui vont s'arrêter là parce qu'après, il faut faire les 7 autres pour repartir dans l'autre sens, quoi. Donc je sais pas. L'année dernière, on était 300 au départ. On était encore une trentaine au semi-marathon. Voilà, et on était 15 à l'arrivée. Mais l'année dernière, l'arrivée, c'était 71 km quand même. Donc...
Oui, ça faisait quand même une étape qui était 71, on rentre donc quand même dans des distances qui sont pas si faciles que ça à faire. Surtout que, après, tu te dis, toi et tes amis coureurs, là, il faut le refaire tous les jours. Donc vous l'avez refait tous les jours pendant 13 jours, donc c'est l'enchaînement aussi. Tu disais, au 600e kilomètre, vous étiez quand même bien, bien cuit, puis après, vous avez presque volé sur la fin, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais vous voulez...
Oui. On a volé à partir du moment où on a compris qu'on allait y arriver. C'est-à-dire que jusqu'à Lyon, franchement, il y a eu tellement de bobos que, qu'on se posait vraiment la question, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et puis là, on était là tellement suivis, enfin, c'était à la fois impossible de pas aller au bout, et en même temps, pour le corps, les corps, c'était vraiment compliqué. Et puis voilà, après, on a dépassé Lyon, et puis quand on est arrivé à Valence, c'était une évidence. Enfin, les machines en plus marchaient mieux, quasiment plus de douleur. C'était sûr qu'on allait arriver au bout, donc en fait, c'est vrai qu'on a survolé la fin avec une facilité presque déconcertante.
Ça, c'est un point commun que donnent tous ceux qui ont fait des grandes distances comme ça, c'est de dire qu'au début, c'est dur, les premiers jours, etc., de repartir. Puis au fur et à mesure, le corps s'adapte, mais vraiment à ces grandes distances. J'ai en mémoire, c'est Stan Gruau que j'ai eu qui a fait Lille-Nice en courant.
Lille-Nice.
Bon, il était jeune et tout, mais il continuait à courir bien et tout. Et il disait, c'est vrai qu'il y a le premier jour, enfin le deuxième jour, il pense pas repartir. Enfin, il se demande s'il va repartir ou il arrive pas. Et puis au fur et à mesure, ça repart et de mieux en mieux, en fait.
Mais ouais, clairement, il y a une accoutumance. C'est-à-dire que moi, je me rappelle très bien les jours 3, 4, 5. Mais on nous avait prévenu, hein, mais 3, 4, 5. Bon, il faut dire que les deux premiers jours, en fait, on a fait 153 km en deux jours. C'était quasiment les deux plus longues étapes, 71 et 80 et 82. Et le troisième jour, quand on est parti, ça a été infernal, vraiment. Les corps ne marchaient pas. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être une poupée mécanique rouillée. Et puis chaque mini arrêt ravito en boit un verre d'eau et c'est reparti et le redémarrage est atroce. Donc jours 3, 4, 5 ont vraiment été durs. Il y a eu je pense qu'on aurait rempli, je sais pas, la mer rouge tellement on a pu pleurer sur ces jours-là. Et après, donc à partir du sixième jour, ça y est, c'était parti, on a senti que ça allait mieux. Et puis voilà, ensuite, au bout du neuvième, alors là, voilà, on volait par-dessus tout, quoi.
Ouais. C'est le dernier, c'est le dernier kilomètre du marathon. Mais, bon, c'est un peu plus quand même, un peu plus long, mais en pourcentage, etc. Mais c'est vrai aussi, il y a cette histoire de mental qui joue beaucoup. De dire, bon, ben, on sait qu'on va y arriver, que ça va le faire, etc. Et on est porté, etc. C'est une sacrée aventure quand même parce que, bon, là, tu l'as vécu une première fois. Donc,
ouais.
Tu sais que c'est faisable. Et en plus, l'an dernier, vous avez fait plus que ça. Donc, cette année, finalement, et vous avez quand même enlevé un tiers de distance, quoi.
Ouais, un petit peu moins d'un tiers, mais ouais, on a enlevé un quart, parce que 660, ouais.
Je sais pas, je suis pas bon en maths, moi, tu sais, je suis pas musicien ni en maths. Hein.
Mais oui, on a raccourci un peu. Après, le truc, c'est qu'il faut pas essayer de retrouver les sensations de la dernière, parce que c'est notre plus grand ennemi, on le sait, ça, on a fait plusieurs réunions pour parler de ça. C'est-à-dire qu'il faut. C'est tout à fait possible que ce soit moins plaisant, parce que c'est moins fou, parce qu'il y a du déjà vu. Donc, il faut vraiment penser ce projet comme un nouveau projet. Là, cette année, ce qui m'intéresse, c'est le défi, c'est d'arriver tous les jours pour d'être là pour le concert, quoi.
Ouais.
Dernière, le défi, c'était d'arriver jour après jour. Cette année, on doit être là à chaque concert, on doit arriver en meilleure forme. Et puis, on doit avoir beaucoup plus de choses à gérer parce que bon, c'est pas encore complètement sûr, mais moi, je suis en train d'étudier la possibilité d'emmener mes enfants, qu'elles fassent le parcours avec nous. Donc, il y a beaucoup de choses logistiques à organiser. Et puis, il va y avoir beaucoup plus de monde qui vont venir par étapes. C'est-à-dire que l'année dernière, on a eu des étapes rigolotes, par exemple au Creusot, où ils avaient organisé avec le club d'athlée. Et on a fait un départ, on était une trentaine de coureurs, de gens qu'on ne connaissait pas et qui, en fait, étaient très forts. Il y avait deux anciens champions de France de 10 000, par exemple. Et ils nous ont porté, mais en fait, ils nous ont dit, on fait juste 5 km avec vous pour pouvoir rester dans les clous de l'interdiction géographique. Et en fait, ça leur a tellement plu la joie qu'il y avait dans ce groupe qu'en fait, ils ont fait un semi avec nous. Ils ont fait 21 bornes. Et ils sont repartis encore, donc eux, ils ont fait un marathon, quoi.
Ah ouais, eux, ils sont sortis de la zone. Mais en fait, vous avez amené les gens dans hors la loi, là. Mais attends, c'est.
Mais on voulait pas, mais oui, les gens, en fait, ils étaient super heureux. Puis surtout, ils ont senti, ces gens du Creusot, ils ont senti qu'on avait besoin d'aide. C'était des journées où on était assez mal en point. Et ils ont senti que grâce à eux, en fait, ce premier semi, on l'a fait quasi facile parce qu'on a discuté, on s'est raconté. Il y avait un monsieur qui avait 78 ans, qui avait fait plus de 110. 100 km.
Plus de 110, 100 km.
Il avait plus de 110, 100 km. Et wow. Il avait 78 ans, hallucinant. Et il a fait le semi-marathon avec une aisance.
Il est au Creusot, le monsieur ?
Ouais, il est au Creusot.
Si jamais tu le revois, tu me donnes son contact. Il faut que je l'invite.
je t'enverrai, je pense que j'ai son contact.
Ça marche.
Et il est incroyable. Donc voilà, ça, en fait, c'est des rencontres aussi qui nous ont galvanisés, où on s'est dit, voilà, on a tous nos petits problèmes et tout, mais finalement, on est juste tous immensément heureux d'être là, d'être ensemble et d'en profiter, quoi. Donc cette année, je pense qu'on va y avoir vraiment, il y aura beaucoup, beaucoup de clubs qui vont se joindre à nous. Donc ça va être aussi ça, la nouveauté, c'est qu'on va rencontrer beaucoup plus de monde et partout et tout le temps.
On va donner à peu près le trajet. Donc Montgeron, c'est sud de Paris, c'est ça?
Ouais.
Donc vous partez Moret-sur-Loing, donc on est dans la zone.
On va vers Fontainebleau, en fait.
Fontainebleau, ouais. Auxerre, après, hein, pour les grandes zones.
Ouais.
Et puis ensuite le Creusot, puis ensuite ça descend vers Lyon.
Alors juste parce que entre Auxerre et le Creusot, il y a un truc pas mal, c'est pour moi c'est la plus belle partie de la course, c'est qu'on traverse le Morvan, c'est-à-dire qu'on rentre vers l'ouest, donc on fait Auxerre-Vézelay, donc on rentre un peu vers l'intérieur. Et après on fait Vézelay, Anneau, le Creusot, donc ça c'est le Morvan et c'est pour moi c'est les plus beaux souvenirs de paysage de l'année dernière. J'ai vraiment trouvé ça, je connaissais pas en plus, je sais pas bien. C'est sublime pour aller se balader en famille et tout, je le recommande chaleureusement, c'est somptueux.
Ouais, et ça me permet de faire un petit clin d'œil à mon invité de la semaine précédente, Hermano, qui lui va faire Rouen, Menton en swimrun. Rouen, Dunkerque, pardon, excuse-moi. Tu as la grande traversée comme ça, en alternant course et natation. Alors, natation en piscine, parce qu'il ne peut pas remonter les rivières. Et il va traverser cette zone-là, en fait. Il y a plein d'endroits où vous êtes passés en commun, mais vous ne serez pas dans la même période. C'est dommage parce que il aurait pu regarder vos concerts en même temps qu'il arrivait dans vos étapes, etc.
Ce serait bien, ça.
Ouais, mais il a repoussé un peu, en fait. Il a décalé son temps de départ parce que, on ne l'a pas dit, en fait. Vous partez quand?
On part le 23 avril. Là.
Ouais. 23 avril au 6 mai, donc vous c'est ça. Et lui, il partira plus tôt il a décalé sur fin mai. Mais en fait, vous avez des zones, et ce que je disais la semaine dernière quand on avait enregistré aussi, c'est que il y a des zones, effectivement, où un peu de montagne, etc., que peut-être les gens, d'ailleurs, connaissent pas. Tu disais le Morvan. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui connaissent pas le Morvan, qui se rendent pas compte à quel point c'est aussi un paysage magnifique.
Ah bah c'est sublime. Alors pour la course, faut le savoir, pour les coureurs, il y a un peu de dénivelé dans le Morvan.
Ouais, c'est ce que je lui ai dit aussi. Je lui ai dit, ça va être dur.
Là, bon, nous, enfin, pour le coup, le dénivelé, on a l'habitude parce qu'on fait beaucoup de courses en montagne. Mais finalement, celui-là, il est surprenant. On s'attendait pas à trouver ça là. Mais bon, c'est sublime, hyper beau.
Je suis pas très surpris parce que tu sais, moi je suis en Auvergne et en Auvergne aussi c'est pareil, les gens ils ont l'impression que c'est pas des grandes montagnes, etc. Puis quand tu leur mets un peu de dénivelé dans tous les trucs et qu'ils se rendent compte, moi quand ils regardent mon Strava, ils me disent mais attends, t'as fait une sortie de tant de kilomètres et t'as autant de dénivelé, bah oui, mais ne serait-ce que pour partir, rentrer de la maison, je suis obligé de monter et de descendre, de monter, de descendre, les gens se rendent pas compte. Alors c'est vrai que c'est moins abrupt que la Réunion, que les Alpes, etc. Mais le Morvan c'est pareil, ça fait partie, c'est une espèce de toboggan permanent en fait, hein. Ça fait partie des trucs, ça monte, ça descend, c'est pas des grands pics, mais par contre c'est comment dire, c'est la répétition en fait qui fait ça.
Ouais, c'est et puis c'est du paysage un peu du sentier accidenté, donc c'est des jours où faut faire attention, faut on regarde bien où est-ce qu'on pose les pieds, les chevilles, etc. Donc c'est pas mal parce que ça change un peu de la route, parce qu'après Lyon par contre pour le coup c'est à part que la lumière est belle, c'est tout droit et c'est tout plat quoi.
Oui, c'est ça, parce que donc, on disait Lyon, ensuite, donc vous descendez, c'est ce que j'ai dit à Hermano la dernière fois, j'ai envie de dire, vous prenez l'autoroute du soleil.
C'est quasiment ça, en fait, on prend la Via Rona, qui est l'autoroute du soleil des vélos.
Oui.
Et qui, en fait, c'est un peu monotone, c'est un peu tout droit, mais ça fait qu'on peut, parce qu'il faut bien réduire un peu le nombre de kilomètres quand même, parce que si on commence à faire des détours par la Pampa, c'est plus 900 qu'on aurait fait, c'est 2000 quoi. Donc oui, on va tout droit, autoroute des vélos quoi.
Voilà, l'autoroute des vélos. Et tu vois, Hermano dont on parlait, lui, c'est ce qui suit, c'est la Via Agrippa, mais qui doit, tu vois, dans ces zones-là, tu sais, qui était la voie romaine, justement, qui traversait la France comme ça. Et donc ils sont en train de chercher les tracés, tu sais, pour arriver à cette zone-là. Je suis sûr qu'il y a plein d'endroits où vous auriez pu courir ensemble. C'est dommage que vous soyez en décalage.
Faire une ou deux étapes de reconnaissance avec nous dans le Morvan, par exemple.
Ouais, je sais pas où là, je sais pas comment ça va être prévu. Et puis je fais un petit clin d'œil aussi à Kna qui est en train de préparer justement le chemin. Et là hier il m'a mis un petit message qu'ils sont en train de repérer les chemins pour passer. Parce que ça c'est une question que je voulais te poser. C'est comment vous avez fait le trajet de savoir par où vous allez passer en fait.
Alors ça, moi je suis pas du tout expert dans ce truc là surtout que j'ai aucun sens de l'orientation, donc c'était une partie très importante, c'était que les montres puissent nous diriger. Donc moi je suis allé sur un site qui s'appelle Calcul Itinéraire.
Ouais.
Et j'ai tout tracé à la main, C'est-à-dire que ça m'a pris à peu près 2h30 par étape.
D'accord.
Donc, en fait, je faisais tracé par tracé en regardant et en satellite et en plan, quoi. Et pour essayer de, parce que bon, on avait de la chance, il y avait un confinement, donc il y avait personne, on n'a pas croisé de voiture ou d'attroupement, où on était assez sécurisé. Mais on a essayé de passer vraiment que par des endroits où il n'y avait pas de voiture possible. Donc on a évité toutes les départementales, on a évité toutes les trop grosses villes, trop grands villages, etc. Mmh. Donc ensuite on extrait ça en GPX, on les balance dans nos montres et puis on les met sur le site pour que les gens puissent nous suivre. Mmh. Et en fait ça a plutôt pas mal servi parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettaient, qui regardaient le GPX et qui nous attendaient sur des points de passage, soit pour venir courir avec nous mais en pleine forêt, soit pour, il y en a même des gens qui se sont arrêtés avec des instruments et qui ont joué pour nous des moments de passage. C'est super rigolo, quoi.
Ouais, c'est chouette. Et ouais, tiens, je, en même temps, j'étais sur Twitter, je suis en train de voir Knack, dont je te parlais là pour le projet d'Armano. Et ben justement, il parle de la Via Rhôna. Ils se sont rendus compte que justement, ils pouvaient passer par la Via Rhôna. Et je vois une photo, ça a l'air magnifique, cette voie là qui descend comme ça là.
Alors c'est assez beau parce que ça longe le Rhône. Il y a des petits moments où ça s'écarte. Et quand ça s'écarte, c'est toujours pour aller dans la verdure, donc c'est très beau. Mais c'est un tout petit peu tout droit. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que quand on le fait à vélo, entre les étapes, finalement, c'est rapide. Voilà, on fait 2 heures de vélo, c'est réglé. Quand on y passe toute la journée, voilà, c'est un tout petit peu monotone. Un tout petit peu trop. C'est plus sympa de faire un petit bout et d'essayer de passer par l'intérieur après.
D'accord. Et tiens, je viens de voir, tu parlais de vin tout à l'heure. Je viens de voir que entre Vienne et Tain-l'Hermitage, c'est un truc que vous avez passé dans ce coin-là. Il y a Valrhona aussi, il y a le chocolat. T'aimes pas le chocolat aussi au passage?
Si, et j'espère, parce que l'année dernière, sur les tracés, j'avais fait des petites boucles exprès. Donc, j'avais, par exemple, moi, j'adore le vin, le Guigal, donc le château en puits. Donc, on était passé par Condrieu, en puits, tout ça, c'est tous les domaines de vin. Et c'était chouette, hein. Et donc, cette année, ouais, Tain-l'Hermitage, les Crozes d'Hermitage, on s'y arrête carrément pour faire juste une grande dégustation. Mais le chocolat, écoute, c'est une très très bonne idée. On va s'arrêter là.
Voilà. Tain-l'Hermitage, t'as la cité du chocolat, Valrhona, pour pas les citer. Mais maintenant qu'on les a cités, ils ont plus qu'à donner de l'argent pour sponsoriser vos aventures et etc. Parce que, je t'ai pas demandé finalement, parce que tu dis t'es producteur, etc. Ton métier, c'est aussi d'organiser ce genre de choses, etc. Mais ça doit coûter, là, ils vont vous loger, les villes, ou vous avez un budget pour arriver à faire tout ça, là?
Alors, c'est un projet qui coûte assez cher, on peut le dire. C'est un projet qui coûte 93 000 euros.
D'accord.
Donc, il y a quand même il y a un vrai enjeu. Et pour l'instant, je n'ai pas fait le calcul d'état, mais je crois que j'ai levé à peu près 6 000.
Oh.
Donc, je t'ai vu, t'as fait gloops.
T'as du taf.
oui, on a évidemment besoin d'aide, de soutien, de crowdfunding, etc. Et puis donc pour les villes, oui, il y a beaucoup de villes qui nous logent quand même, encore, enfin en fait quasiment toutes. Et puis il y a aussi des gens, c'est assez rigolo, il y a des gens qui ont eu vent du projet avant même qu'on communique, donc je sais pas comment ils savent, mais et qui nous ont dit, vous savez, on a un château là, on peut vous loger. Alors on leur dit, mais c'est pas sur notre route. Elle dit, mais c'est pas grave, vous avez qu'à, de toute façon vous vous arrêtez là, donc vous venez chez nous, on vient vous chercher. Donc il y a même des trajets qu'on a modifiés pour pouvoir arriver chez eux en courant.
C'est chouette, mais après, tu sais, tu dis oui, je sais pas comment ils ont su, etc. Mais bon, il y a le bouche à oreille, il y a les gens qui vous connaissent. Regarde, moi, comment t'es là, c'est qu'il y a une mise en contact, il y a quelqu'un qui me dit bah tiens, et tout, attends, tu voudrais pas l'inviter. Donc, il y a des gens en fait qui connaissent ton projet, ouais. Et qui savent et qui en parlent déjà autour parce qu'ils savent, ils l'attendent aussi.
Oui, c'est vrai que moi, le truc, c'est pas moi qui gère les réseaux sociaux parce que j'y comprends rien, j'ai pas le temps, etc. Mais il y a quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont au courant de ça. Et hier, on a fait, dimanche, on est passé dans une émission, sur une chaîne de YouTubeurs McFly et Carlito.
Ah oui, ouf. Et... des petits.
Oui, des petits, avec ils ont fait un truc avec Squeezie. Et donc, en fait, la vidéo, là, j'ai regardé hier soir, elle avait déjà été vue 4,4 millions de fois, quoi.
Ouais.
Donc, évidemment, ça fait grimper les trucs et on a reçu une quantité de messages absolument hallucinante. Donc, c'est une superbe pub de leur part, hein, et on les remercie. Mais c'est vrai que, oui, ça va vite. Et c'est sympa de se dire que le projet est attendu parce que c'est vrai qu'il est fédérateur, je pense. Mmh. Très fédérateur, ce projet.
Donc, alors attends, on n'a pas fini de faire le trajet, donc Valence, après, bon, tu vas Cavaillon, Aix-en-Provence, bon, c'est la fin, hein, après, c'est les... Oui, c'est vraiment l'autoroute du soleil, là, c'est vraiment direction les vacances.
Voilà, et puis alors, la dernière étape, elle est chouette. Alors, c'est la plus longue, mais c'est exactement la même que celle qu'on a fait l'année dernière. Donc, c'est Cavaillon-Aix. Et on fait deux arrêts. On s'arrête au bout de 28 km au château de Calavent, qui est un de nos partenaires et qui nous offre le déjeuner et une dégustation de vin. Et ensuite, on s'arrête au domaine de la Camaïsette, qui est un domaine qui fait de l'huile d'olive et du vin. Et on a une deuxième dégustation de vin. En général, on arrive à Aix, on est bien. On est frais, on est heureux, on est joyeux.
Disons-le pour ceux qui ne savent pas, c'est une étape de 60 km avec deux dégustations de vin donc placées au milieu pour les voilà pour le ravitaillement hein, etc. Courul 6 mai où il peut faire une petite chaleur quand même, on sait jamais quoi.
L'année dernière, ça allait, il faisait pas trop chaud, il même pleuvait. Mais oui, s'il fait chaud, bah justement, le rosé bien frais, c'est agréable.
C'est quand même un projet. Enfin, quand on parle aux gens comme ça, là, ils disent quoi?
Ben, en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a avant la saison 1 et puis avant la saison 2. Donc, avant la saison 1, quasiment tout le monde m'a dit c'est impossible, tu n'iras pas au bout. C'était une unanimité.
Ouais.
Voilà, ou alors les gens disent t'es taré, en fait, il y a beaucoup de gens qui disent c'est impossible. Et ça, ça fait vraiment partie des choses qui m'agacent parce que, enfin, c'est pas que ça m'agace, c'est dommage
Ouais.
de se limiter comme ça. Mais c'est le propre de l'être humain, on passe notre temps à se limiter. Mais voilà, c'est possible. Et maintenant, avant la saison 2, les gens, soit qui ont vu, soit qui voient le film, quoi, qu'on entend parler, etc., se rendent compte de l'importance du lien social et de la bienveillance qu'il y a autour de ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le projet assez exceptionnel de dire on fait une course absolument folle, et puis il y a aussi ce côté, ben voilà, on tisse du lien, on est ensemble, on a envie de partager de la musique, on a envie de faire ça, quoi. Donc oui, là les gens sont assez en attente. Le problème, c'est que les gens maintenant sont sûrs qu'on va y arriver facilement.
Ouais, c'est ça. En fait, et tu vois, je te l'ai dit tout à l'heure. En fait, j'ai fait exprès, en fait, de pousser un peu le bouchon en disant, ouais, attends, vous avez enlevé un bon quart du parcours, ça va être plus facile que, tu vois. Enfin, c'est un peu le, c'est parce que d'habitude les trajets, les gens, ils les allongent. Vous, c'est vrai que vous le raccourcissez dans cette histoire-là, et tu te dis, ouais, ça va être plus facile quand même, tout.
Bah oui, c'est vrai qu'on nous attend au tournant déjà. Et puis, mais cette année, il faut vraiment qu'on arrive à faire passer le message de, on se transforme. C'est-à-dire que maintenant, c'est un festival itinérant et plus uniquement une course. Après, une course de 660 km, ça reste quand même décent. Hein, on la fait pas tous les week-ends. Mais oui, non, il va falloir trouver comment apporter la nouveauté sans qu'on se dise, bah finalement, ouais, c'est bon, ils ont fait une petite course cette année, ça a moins d'intérêt que la dernière fois.
Ouais, cette année, ouais, voilà quoi. Et la question que je t'ai pas posée, c'est quand même, c'est comment tu t'entraînes pour être prêt à ça là?
Alors, ça, c'est vraiment la question qui fâche. C'est-à-dire que tous mes petits copains, là, ils sont toutes les semaines, ils font des trails toutes les semaines. Là, ils reviennent du Seven Trail où ils ont fait 60 km avec 2500 de
Oh
D+.
bah ça va être facile le Morvan pour eux. Pouf.
Oui, bon, et puis, ils courent quasiment tous les jours, au moins 3-4 fois par semaine. Ils sont tous au marathon en 3-15, 3-20, tout va bien. Moi, c'est pas du tout ça. Ça va faire hurler certains, mais moi, je m'entraîne jamais. Mais vraiment jamais. Donc, la dernière fois que j'ai couru, donc la dernière fois que j'ai mis une paire de baskets, je sais exactement, c'était le 21 octobre dernier. Je suis parti faire le trail des Templiers. Donc,
Ah,
ça,
quand même.
c'était 108 bornes avec 4008, je crois, de mémoire.
Ouais.
Et la fois d'avant où j'avais couru, c'était pour faire le Grand Raid des Pyrénées. Et la fois d'avant, c'était je cours pour la culture. Donc, moi, sans rire, je cours 4 fois par an. Je m'entraîne pas parce que déjà, j'ai pas le temps. Parce que j'ai beaucoup de travail, et puis mes filles, et puis voilà. Et c'est pas une grande passion pour moi, la course. Par contre, là, le fait d'en parler, j'ai envie de courir. Là, on en parle depuis 1 heure. Là, ça me titille. Et bon, il va falloir quand même que je prépare mon corps un tout petit peu, donc je vais recommencer à m'entraîner. J'ai une course ce week-end. J'ai une course là. Voilà, je vais remettre une paire de chaussures ce week-end. Je fais la Griffonnière. Où les organisateurs m'ont gentiment envoyé un dossard pour que m'obliger à courir et puis surtout que je vienne parler du projet. Donc voilà, c'est 23 km.
Oh, ça va, pour de la reprise.
Oui, c'est ça. Il va falloir. Mais après, moi, donc forcément, je suis beaucoup moins fort que mes copains. Je cours moins vite. Alors, je cours longtemps. Ça, c'est. J'ai pas de problème à tenir longtemps, mais voilà, je cours beaucoup moins vite.
Non, mais c'est quand même étonnant ce que tu dis, parce que enfin, l'an dernier, bon, enfin, faire 900 bornes et puis cette année 660 en t'entraînant pas, en courant aussi peu, etc. Et même tu me dis, attends, j'ai fait les Templiers, j'ai fait 108 bornes des Templiers avec le dénivelé. Et enfin, en plus, c'est pas un terrain qui est facile. Enfin, t'habites en région parisienne en plus. Enfin, je veux dire que les gens qui préparent les Templiers, ils cherchent du dénivelé, ils cherchent à savoir comment ils vont courir sur des chemins un petit peu accidentés,
Oui,
affronter la caillasse et compagnie. Et toi, t'y vas les mains dans les poches.
mais
Enfin,
parce que eux, ils cherchent à faire un temps. Moi, je
ouais.
cherche à finir dans les temps. Moi, mon seul ennemi, c'est la barrière horaire.
Ouais.
C'est-à-dire que, moi, tout ce que je me dis, c'est tu cours, dès que tu peux, tu cours. C'est-à-dire que si le terrain le permet, si c'est pas en montée insupportable et que tu cours, voilà. Tu mets un pied devant l'autre, mais en course et pas en marche. L'année dernière, c'était un des grands challenges, c'est que je voulais pas que les 900 se transforment en une grande balade sous prétexte qu'on n'avait pas de barrière horaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment couru, couru, couru. Sur les 900, franchement, je pense qu'on en a couru, j'en sais rien, au moins 700, quoi. On a assez peu marché. Et c'est ça qui m'amuse dans ces challenges, c'est de me dire, voilà, ne transforme pas ça en une grande balade. C'est une grande course.
Mais finalement, la barrière horaire là, avec vos concerts qui sont organisés le soir, c'est que finalement, il faut être à l'heure au concert quand même.
Alors, faut être à l'heure, mais comme on va partir tôt et qu'on n'a que 50 bornes par jour, il y a, voilà, 50 bornes, je sais pas, on va les faire en 6-7 heures, quoi, avec le repas compris. Donc, si on part à 9h, on sera largement là à l'heure pour le concert à 19h. Après, il peut y avoir des problèmes. L'année dernière, il y a eu des problèmes, hein. Donc, il peut y avoir un moment la machine qui marche plus. Il peut y avoir un moment une pause obligatoire de 2 heures. Ouais, ça va être au jour le jour, quoi. Il va falloir suivre toutes les aventures. On espère qu'il n'y aura pas trop d'aventures, ou en tout cas pas trop de mésaventures, mais il y en aura.
Ouais, on a parlé donc bon le logement et tout qui avait été comment vous tu vois tu dis les repas bon t'as dit là il y a une étape on fait deux étapes dans des châteaux ou non je sais pas des propriétés etc et tout comment vous gérez les ravitaillements tu vois parce que tout à l'heure t'as dit après il y avait un premier ravitaillement au bout de 7 km etc comment vous gérez ça là en fait?
Alors en fait, on prépare les parcours, donc ça c'est assez bien planifié, presque comme une course normale hein, quand on a son dossard. Et on installe des points de ravitaillement là où les voitures peuvent arriver, et quitte à faire des détours derrière notre chemin pour pouvoir les retrouver, il faut qu'il y ait un point d'eau, donc un stade, un cimetière, un endroit où on peut aussi remplir les bouteilles.
Un cimetière. Je répète parce que j'ai dit la semaine dernière, Hermano, je dis, repère les cimetières sur ton parcours, les cimetières sont importants.
Déjà, on peut se reposer. Et en plus, non, il y a toujours les points d'eau dans le cimetière.
Et oui, toujours, toujours. Et je le répète parce que c'est vrai qu'on en parlait et il me disait oui, mais il me disait lui il est du Luxembourg. Au Luxembourg, a priori, les cimetières où il a, il s'est marqué eau non potable. Je dis mais attends, je dis en France, ils ont tous de l'eau potable hein, dans les cimetières. Je dis et je le redis pour ceux qui partent à l'aventure comme ça, les cimetières font partie des endroits où on trouve de l'eau. Quasi, enfin, il y a de l'eau dans tous les cimetières.
Absolument, systématiquement. Donc c'est oui, c'est vrai que c'est important. Et donc, en fait, on organise, donc l'année dernière, donc les étapes, quasiment toujours, c'était entre 70 et 80. Et en fait, une des techniques qu'on a mises en place dès le deuxième jour, parce qu'on s'est aperçu que ça nous faisait du bien, c'était de se dire, on part pas pour 80, on part pour 8 fois 10. Et donc, il y avait un ravito tous les 10 km, avec voilà, toujours les mêmes choses, mais présentées différemment. En fait, ils ont fait super, super attention. Voilà, parfois, ils sortaient tout, ils nous faisaient un grand déballage, comme si c'était un vrai ravito d'une course. Parfois, c'était dans les voitures. Parfois, il y avait un jour, ma femme le matin demandait qui aurait envie de manger quoi dans un rêve absolu. Et puis, je sais pas, il y en a un qui a dit du saumon, l'autre qui a dit du poulet rôti, je sais pas quoi. Et ils s'étaient démerdés. On est arrivé le midi, il y avait tout ce qu'on avait demandé. Il y avait un énorme poulet rôti, il y avait des frites, il y avait du saumon, il y avait du. Et en fait, l'idée, c'est aussi de casser la routine, c'est-à-dire que on peut pas manger des cacahuètes, des barfis, des fruits secs pendant 13 jours. On a plus envie de ça, quoi. C'est comme les premiers matins, on avait demandé à toutes les municipalités, tous nos hébergeurs, tout le monde, de nous préparer tous les matins œufs, pâtes et café. Et en fait, au bout de 3 matins, on en avait marre de manger des pâtes. Donc après, on s'est dit, on mange ce qu'on veut, et puis voilà, c'est pas grave, et on verra bien, quoi.
On s'arrête à la boulangerie.
Mais oui, pas en chocolat. En fait, ce qu'il faut, c'est faire attention à l'alimentation, mais surtout, on s'est tous énormément surveillés les uns les autres, c'est l'hydratation, c'est-à-dire boire boire tout le temps, même quand on n'a pas soif, et puis surveiller que tout le monde mange bien, quoi. Parce qu'il y a, les moments où la tête décroche, il faut que ceux qui soient autour, les copains, soient super vigilants, en fait. On a vraiment fait attention à nous. C'est con, mais comme à l'armée, on surveillait nos pieds, on surveillait nos dos, on surveillait la démarche de chacun. On était presque une petite famille, quoi. Les copains qui se soutiennent, quoi.
Ouais, mais c'est, alors là, tu vois, la démarche telle que tu la présentes, c'est aussi la démarche d'une expédition, en fait. C'est le départ en expédition. J'en ai parlé, ben justement, Stan Groen n'en est pas dans ce point nutrition, en disant, le critère alimentation, c'est un critère dans les expéditions, etc., quand il en fait, qui est vraiment important, parce qu'il y a des gens qui mangent pas assez. Donc ils peuvent se retrouver épuisés parce qu'ils n'ont pas mangé assez. Il y a ceux qui boivent pas parce qu'ils surveillent pas. Il y a ceux qui ont peur de manquer ou qui pourraient à la limite trop manger, tu vois, des fois on pourrait dire, etc. Donc, et se surveiller si tout le monde va bien, si c'est un peu, j'ai envie de dire, un peu une expédition aussi, quoi.
Ben, c'est une expédition, et puis il y a vraiment un truc de le fait de soutenir, d'avoir beaucoup de proximité entre nous, c'est un truc qui est très important. C'est-à-dire qu'en fait il faut être à l'écoute du corps de l'autre. Donc, il y a des moments où on peut courir ensemble, il y a des moments où on peut pas courir ensemble, il y a des moments où il faut laisser certains qui vont pas bien, il faut les laisser mariner dans leurs idées noires parce qu'ils ont pas envie qu'on leur dise, mais ça va, tu vas y arriver. Ils ont juste envie d'être seuls, confrontés à eux-mêmes, etc. Et puis, il faut aussi sentir le moment où, en fait, il faut pas les laisser trop longtemps seuls parce que sinon ils vont exploser. Donc, c'est beaucoup de petites attentions, à gérer avec une fatigue aussi. Donc, parce que la fatigue, elle est tournante. On n'est jamais tous fatigués en même temps. Il y a un moment, c'est Julien, après ce sera moi, après ce sera Manu, enfin, ou n'importe quel coureur. Et puis, il faut gérer aussi avec les nouvelles têtes. C'est ça qui est assez marrant. Enfin, moi, ça, j'ai trouvé ça formidable l'année dernière, c'est que les jours où il y avait des nouvelles têtes, on était tous bien tout le temps. Ouais. Il y a un nouveau coureur qui vient, on a eu des coureurs extraordinaires. Si tu le connais, le Ménestrel ?
Oui.
Voilà, Philippe Genevaux, qu'on a rencontré plusieurs fois en course, qui est un type absolument extraordinaire. Hein. Et ben, il dit rien, quand il est arrivé, c'est une telle, c'est un shoot, c'est un quintuple vaccin de joie, quoi. Donc voilà, on a un copain aussi qui s'appelle Alex le Viking, qui fait beaucoup de courses, qui court très bien, c'est un super coureur. Et quand un jour il est sorti de la forêt, on savait même pas qui venait, on est arrivé à Lyon, il habite Lyon, et puis il nous avait suivis, il nous avait suivis exactement sur les réseaux sociaux, et puis il a dit, les gars, il vous reste 32 bornes, là, je viens vous aider parce que je vous trouve mollasson. Mollasson. Je peux te dire que les 32 dernières, elles sont passées faciles. Donc voilà, plein de petits éléments comme ça qui viennent s'ajouter et nous aider à... En fait, c'est la psychologie. Enfin, il faut que le mental tienne, quoi.
Ouais. Si tiens, et j'ai une question parce que c'est un lien et c'est quelqu'un que je voudrais bien inviter aussi sur le podcast un jour. Tu connais Alexandre Jousse, qui joue du corps des Alpes, qui court et qui joue du corps des Alpes.
Ah non, je connais pas.
Tu connais pas. Et je l'ai vu parce que l'an dernier, il était l'invité sur une course qui passait devant, qui était organisée par un des clubs où j'ai couru. Et en fait, je crois qu'il habite à Lyon, en fait. Il me semble, d'après ce que j'avais vu. Et lui, il a une caractéristique, c'est qu'il a un corps, tu vois, un corps des Alpes, comment c'est fait? C'est grand, hein, un corps des Alpes. Hein. Et sauf qu'il a un modèle, qui est extrêmement léger parce que quand tu portes, tu vois la main, etc. Et donc, il s'arrêtait par endroit. Et en fait, il s'arrêtait, il jouait un morceau. Il repartait en courant. Et
Alexandre comment?
Jousse, J-O-U-S. Et je l'avais vu et j'avais même fait une petite vidéo. C'est drôle parce que donc il court avec, alors il se démonte hein, son corps. Et ouais. Sinon, et donc il y a des moments il l'a entièrement, etc. Et je crois qu'il fait des trails, des courses et tout avec, etc. Et c'est aussi une autre manière, tu vois, d'allier. Alors c'est plus léger parce qu'un violoncelle, je t'ai pas demandé le poids d'un violoncelle, mais tu peux pas courir avec.
Non, en fait, c'est léger. Un violoncelle, ça fait 3,5 kg. Avec la boîte, ça fait 7,5 kg. Mais donc, c'est pas très lourd. Mais par contre, c'est très fragile. Enfin, moi, mon violoncelle, c'est un vieux monsieur italien, etc. Donc,
c'est j'imagine. Pas,
voilà. Donc, on peut pas se permettre de courir avec, de lui faire des secousses et tout. C'est des instruments d'exception. Donc, on peut pas courir avec, mais ils peuvent nous suivre.
Et lui, c'est vrai que l'instrument, un corps des Alpes, ça mesure 3,50 m hein, quand même. C'est très long, mais ça se démonte en 3 petits morceaux. Très léger, je crois qu'il a un modèle carbone ou je sais pas comment, il faudrait... Et hop, il remonte ça, il joue un morceau, et hop, il repart en courant. Et je l'ai vu l'an dernier, je l'ai vu faire l'an dernier parce qu'il était invité sur cette course, parce qu'il y avait un festival aussi, il y avait un peu de musique, etc. Et je me dis, c'est une autre manière aussi, c'est drôle en fait de voir comment vous alliez les uns et les autres, la musique, la course, etc. de manière totalement différente, mais finalement dans ce même esprit de partage, etc. Parce que quand il joue son petit morceau, c'est super joyeux, tu vois aussi, parce qu'il peut jouer des morceaux un peu... il y avait des bandas en plus qu'il jouait, tu sais, il jouait avec des bandas en même temps, etc. Le jour-là, c'était très drôle.
Ah, c'est génial. Bah, je vais absolument regarder et puis le convier parce que ce serait génial. Et puis en plus le cor des Alpes, il y a une notion. Enfin c'est vraiment un instrument d'exception. Il y en a peu de gens qui jouent ça et il y a une notion presque patrimoniale quoi. C'est génial.
Ouais. Et lui aussi il parcourt le monde avec son cor et tout pour faire des concerts etc. C'est voilà. Donc c'est pour ça tu vois j'ai fait le lien. Je me suis dit mais tiens. Tant qu'à passer par Lyon. Bon, alors, j'ai une question que j'ai oublié de te demander quand même, c'est l'an dernier, quand tu as fini les 900 bornes, là, t'avais pas de bobo, il n'y a pas eu un podcast.
Alors, il y a eu un podcast sur le parcours, il y a eu des jours où c'était, j'ai trois coureurs sur les quatre, il y a eu un peu de casse. Mais non, alors, très bizarrement, moi, trois jours plus tard, à part que j'étais vraiment fatigué, j'ai beaucoup dormi, énormément dormi, mais enfin, ça a duré trois semaines où je faisais des nuits de 10 heures, quoi, c'était. Mais sinon, non, il n'y a pas eu trop de bobos. C'était pas de gros trucs en tout cas. Voilà. Mais c'est marrant. Je pense que tous les coureurs de très longue distance comme ça, ils ont expérimenté ce truc, c'est que les douleurs se déplacent. C'est-à-dire que tu sais, il y a une journée où d'un coup t'as mal au genou, mais t'as tellement mal, tu peux pas le poser par terre. Tu mords dans un bout de cuir là pendant 10 heures de course, et puis. Ta douleur, elle est très ciblée. C'est-à-dire, tu sais, elle est dans le genou, de ce côté-là, c'est hyper précis, quoi. Et le lendemain, tu te lèves, ça va très bien ton genou. Par contre, t'as une cheville qui te fait horriblement mal et tout. Et certes, t'as compensé ta douleur de machin. Mais en fait, je pense surtout que c'est que le corps, il envoie n'importe quel signal pour te dire, arrête, ça suffit ce que tu me fais faire, ça, j'aime pas ça, quoi.
Ouais.
Et donc, je pense que très souvent, la douleur, elle est, le ressenti est réel, mais elle est pas réelle. Et c'est vrai que c'est fait partie des choses que moi, je me dis souvent en disant, en fait, c'est juste un signal électrique que ton corps t'envoie, mais c'est pas vrai. Donc, continue, puis tu verras plus tard. Et c'est vrai que ça se déplace. Hein.
Alors, je lis un livre sur le sujet en ce moment, parce que j'ai des douleurs dans le dos, dans les jambes, ça ressemble à une sciatique, mais c'est pas une sciatique, etc. Et le professeur, John Sarno, qui est un professeur américain, a écrit, c'est un livre, le traitement, je peux même plus citer le livre, alors pourtant je cite depuis plusieurs jours comme ça sur cette notion-là, et qui explique que effectivement le cerveau est capable de créer des douleurs physiques.
Ouais.
Parce que par moment, alors il le disait, lui il est plutôt dans le traitement, tu sais, des douleurs type mal de dos, même le rhume par exemple. Tu vois, on pourrait dire il donne l'exemple d'ailleurs des gens qui ont mal aux cordes vocales. Tu vois, qui n'arrive plus à parler, à chanter, etc. Et ben, il dit qu'en fait, c'est le cerveau qui envoie une douleur, qui crée une douleur parce que psychologiquement, en fait, il y a quelque chose qui est dur à affronter émotionnellement, etc. Alors, lui, il est plutôt sur les pathologies, tu sais, des gens qui souffrent, qui ont des émotions, qui ont de la colère, de la rage, etc. Mais il explique comment le corps, les ramifications du corps, etc. Et comment, en fait, on n'a aucune idée de comment tout ça fonctionne.
Ouais.
Mais qu'effectivement, le cerveau, il y a la boîte noire du cerveau, il y a une zone du cerveau qui est capable de provoquer des douleurs à des endroits pour te dire un petit peu, écoute, ça me plaît pas vraiment tout ce que tu fais.
C'est exactement ça, c'est sûr que c'est ça. Mais tu sais, il y a un truc tout bête. Nous, les musiciens, on l'a tous expérimenté, mais ça marche aussi pour les hommes politiques, ça marche aussi pour les gens qui font des discos, etc. T'as un rhume énorme, t'éternues toutes les 3 secondes et puis tu te mouches toutes les 2 minutes. Tu rentres sur scène, t'as ton paquet de mouchoirs, ta poche, t'es prêt et tout, tu te dis ça va être la catastrophe. Pas une seule fois tu renifles, pas une seule fois tu éternues, pas une seule fois tu tousses. Quand on joue, ça nous arrive jamais. Moi, ça m'est jamais arrivé. Et en fait, les hommes politiques, pareil, ils sont là, ils sont 42 fièvre et là, ils rentrent sur scène, ils font leur discours, jamais ils se mouchent, quoi. Et en fait, le corps, il envoie des trucs, et après, il bloque quand il y a un truc qui est plus important, finalement. Et je pense que sur la course, c'est la même chose. Et les très grands sportifs, je pense que c'est ça la différence, c'est qu'ils ont cette capacité de résilience et cette capacité de maîtrise de ce truc-là, en fait. Ils vont puiser dans, enfin, je sais pas, moi, les mecs qui courent la diag en 23 heures, je n'ose même pas imaginer ce que ça demande comme effort.
Ouais, et puis ils doivent s'entraîner à se dire aussi, la douleur n'est peut-être pas si... réel, c'est être, tu sais, apprendre à reconnaître le signal aussi, parce que finalement, si tu dis, peut-être que le cerveau, un jour, il dit, bon, écoute, j'essaie de lui faire arrêter en lui faisant mal au genou, ça n'a pas marché, demain, on va essayer la cheville, ça ne marche pas, et peut-être qu'ils apprennent à reconnaître ces signaux-là, etc., en disant, bon, bah, je sais qu'à un moment donné, je vais avoir mal, etc., que ça va repartir, et que, et voilà, il y a des constructions comme ça, et que, sur la préparation aussi, je pense qu'ils s'entraînent, on en avait parlé aussi, tu sais, avec, je pense à Lilian, j'ai vu, qui a traversé l'Atlantique à la rame. Et t'imagines 47 jours à ramer, ils sont deux à ramer 47 jours, chacun 2 heures par 2 heures, etc. Et au bout d'un moment, t'as les mains dans tous les... Et je lui demande, mais finalement, comment ça se passe? T'as pas un moment donné où tu as envie de... Tu vois, il dit, ah non, faut ramer, on avance, etc. Et puis, le corps s'adapte, et même si on peut pas marcher debout, etc., petit à petit, ça passe.
C'est le principe de la résilience, quoi. Mais le truc, c'est que nous, on l'a choisi, en fait. Nous, on peut arrêter notre course quand on veut. Eux, ils peuvent appeler un téléphone satellite, ils appellent un bateau pour aller la chercher. Et voilà, les gens qui sont en train de quitter l'Ukraine, ils n'ont pas le choix. Donc, nous, d'un certain côté, en fait, on a le luxe de se l'être imposé et d'avoir le choix de tout arrêter quand on veut. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas arrêter, d'ailleurs.
Alors, tiens, j'ai deux questions. Ça, c'est la saison 2.
Ouais.
Bon, on va pas dire, hein, elle n'est pas commencée, la saison 2. Hein, mais bon, est-ce que dans ta tête, quand même, tu te dis, il pourrait y avoir des saisons 3, 4, etc., mais en changeant les destinations? Parce que aller toujours à Aix-en-Provence, c'est bien beau. Mais un jour, tu pourras aller à Bordeaux. Un jour, tu pourras aller voir mes amis bretons. Je dis mes amis bretons parce que avec un podcast avec des bretons, j'ai tellement de bretons qui suivent. Ils pourraient dire, mais moi aussi, j'ai envie de les voir jouer, etc. et tout.
Alors, il y a déjà plusieurs projets qui sont écrits pour l'année prochaine. Donc, en 2023, il y aura ce qui sera la saison 3, mais elle sera en plusieurs épisodes, avec notamment un épisode avec... donc, il y aura aussi des courses plus courtes, qui sont genre 300 bandes sur un week-end, le truc comme ça. Et on ira aussi, on va traverser les frontières l'année prochaine. Parce qu'on va travailler avec l'Union européenne qui est intéressée par le projet, où on va faire venir des coureurs, voilà, italiens, allemands, espagnols, portugais... et des coureurs et des artistes, et donc ce sera le festival va se développer un peu aussi donc sous le joug de l'Union européenne, et on fera plus des sections, c'est-à-dire que par exemple l'année prochaine on pourrait partir de Montgeron, faire une étape là, puis après aller faire une étape en Bretagne, puis après aller traverser deux fois la frontière, donc Italie-Allemagne, autour des Alpes, et puis finir avec deux sections sur Aix-en-Provence. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça l'année prochaine. Mais au contraire, c'est-à-dire que l'idée, c'est de refaire de plus en plus, avec des distances plus ou moins. Ça pourrait, voilà, parfois ça pourrait ne prendre que 3 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est de toujours mêler ces deux choses, c'est-à-dire que la course et la culture.
Ouais, bah écoute, c'est un très très chouette projet en tout cas. La dernière question que j'avais, c'est quand ta femme l'an dernier, tu lui dis, je vais partir à Aix-en-Provence en courant. Elle te dit quoi?
Elle me dit que je la fatigue. Elle me dit qu'elle m'aime, mais qu'il faut que je me calme. Et elle me dit que si je le fais, évidemment, elle sera derrière moi. Voilà. Et c'est ce qu'elle a été, mais elle a été d'une puissance exceptionnelle. Enfin, pour le coup, c'est ça qui est un peu injuste dans ce projet. Enfin, c'est injuste, c'est rigolo, c'est qu'un nom, mais ça s'appelle Je cours pour la culture. Et donc, forcément, c'est associé à ma petite personne parce que j'en suis le vecteur, mais c'est vraiment un projet de famille élargie, je veux dire. J'aurais jamais réussi sans les copains coureurs, j'aurais jamais réussi sans la logistique implacable qui a été mise en place, et j'aurais jamais réussi sans ma femme qui a été un soutien de chaque minute. Hein. C'était vraiment... elle a été exceptionnelle. Donc cette année, elle va plus être dans la logistique, elle va être que dans les concerts, elle va beaucoup jouer. Mais normalement, elle portera pas le one package cacahuète.
D'accord. Et donc, tu disais que tu t'envisages d'embarquer tes filles aussi dans l'aventure?
On est en pourparler. On a une réunion. Là, c'est des réunions maintenant. ce soir, parce qu'en fait, c'est très compliqué. Parce que mes filles, elles sont pas hyper sportives, dans le sens où, bon, voilà, on n'a pas le temps de faire ça tout le temps. Mais l'idée, le challenge, ce serait qu'elles fassent 10 kilomètres tous les jours.
D'accord.
Donc voilà, 10 km à toutes les arrivées, donc les derniers kilomètres en courant, et puis 10 km le matin. Donc, mais c'est beaucoup d'organisation logistique.
Ouais.
En termes d'hôtel, des gens pour s'occuper d'elles. Moi, il faut que je... C'est terrible, mais si elles sont à côté et que je ne suis pas 100% sûr que quelqu'un s'en occupe, ça va être embêtant pour moi. Donc il faut quand même que je préserve un peu ma course, il faut que je préserve les concerts et en même temps vivre l'aventure avec mes filles, mais ce serait tellement le rêve absolu, quoi.
C'est ce que j'allais te dire, parce que ça serait, tu te parlais de famille, là c'est dire vraiment, c'est toute la famille, court pour la culture
ouais.
Et partage, parce que c'est, tu as dit, tes filles font de la musique, etc., vous partagez tout ça ensemble, etc.
Bah ouais, et puis il y a un investissement, c'est-à-dire que en fait c'est tellement prenant ce genre de cours. Enfin voilà, moi, nous là ça fait 15 jours que c'est vraiment parti. Moi je me lève à 6h et je me couche à minuit, hein, donc c'est beaucoup de travail. Donc ça implique forcément dans le milieu familial c'est un petit peu plus voilà, je suis moins présent. Et donc elles ont tous les jours, elles posent des questions. Où est-ce que ça en est? Où est-ce que tu vas jouer? Comment tu vas courir? Comment on peut faire? Nous on veut être là et tout. Donc il y a une implication. Et puis elles veulent jouer au concert, donc et voilà. Et l'année dernière, il y a un détail assez. On n'a pas beaucoup communiqué dessus parce que j'étais pas à l'aise avec ça, mais cette année plus, la chanson officielle, donc qui est sur toutes les vidéos qu'on trouve sur la chaîne d'Orneshka, là, c'est la musique, c'est ma fille ma grande, enfin qui a 10 ans, qui a tout écrit. Elle a écrit les paroles, elle a écrit la musique, elle a enregistré en studio, elle a tout fait.
Waouh.
Donc et la musique elle est top, hein, je t'enverrai, c'est génial. Et donc il y a une vraie implication aussi d'avoir envie de participer au projet, quoi. C'est rigolo.
Bah écoute, en tout cas c'est une super aventure.
Merci.
Je te remercie parce que on parlait de partager du bonheur, etc. Là comme tu disais, et je pense que tu nous en as partagé beaucoup. Ça fait 1h30 déjà qu'on discute. Merci beaucoup pour ce partage, de ton enthousiasme aussi, puis de montrer aussi. Je trouve un autre visage de la culture, etc. Parce qu'il y a peut-être des gens, tu sais, qui sont un petit peu intimidés d'aller voir des concerts quand tu parles musique de chambre, etc. Et tout. Moi, le premier, hein, tu sais, j'étais tellement martyrisé par le violon, etc. dans ma jeunesse. Bon, mais je pense aussi, tu vois, que c'est bien de montrer un autre vision et puis de montrer aussi que vous êtes des êtres humains qui ont une vie qui peut être sportive aussi, tu vois, un autre côté.
Ouais, bah c'est, bah pour le coup, pour la partie purement culturelle, nous c'est vraiment notre métier, c'est-à-dire que vraiment, moi je passe mon temps à faire des concerts, des jukebox, des machins comme ça, où en fait le public vient et nous on sait pas ce qu'on va jouer, c'est une grande roue par exemple,
ouais.
Et puis le public tire au sort et on joue ce qui sort. Parfois c'est des grandes pages de Beethoven, Mozart et Brahms, et puis parfois c'est du déchiffrage ou un truc de jazz, ou en fait l'idée c'est de décomplexer et le musicien et le public à ce rapport à la musique classique, parce que la musique classique, tout le monde aime. Hein. Quand on joue du Mozart au fin fond d'un bidonville, les gamins, ils adorent. On est au fin fond de l'Inde, dans une culture complètement différente, et pourtant, tout le monde adore. Donc, il n'y a pas de raison que voilà, on a la même culture en France, que des gens qui sont moins habitués à la musique classique se disent « c'est pas pour nous ». Au ouais. contraire, c'est pour tout le monde.
Je ne vais pas dire le contraire, moi qui travaille sur du Vivaldi tous les matins pour me donner de l'entrain.
Voilà. Tiens, on a joué du Vivaldi sur McFly et Carlito.
Et ben écoute, tu sais quoi, on va mettre tous les liens et puis surtout, je vais te demander, alors, comment est-ce qu'on peut suivre les choses, les sites internet, etc. Où est-ce qu'on retrouve tout ça?
Eh ben, le mieux, c'est jecoursporlaculture.com. Parce que, bon, pour l'instant, il n'y a rien à part une page d'accueil et on peut suivre en s'inscrivant sur les pages Instagram, etc., etc.
Ouais, mais il y a la photo de toi en mi-coureur, mi...
Oui, elle est pas mal celle-là. Hein.
Ouais, elle est pas mal. Je me demande juste qu'est-ce qu'il y a dans le camelback. C'est que de l'eau?
Ce jour-là, il n'y avait que de l'eau. Mais quand je cours, il n'y a pas forcément que de l'eau. J'aime pas trop l'eau, moi. Mais...
Donc, jecoursporlaculture.com.
Voilà, et puis donc l'Instagram qui est avec, qui s'appelle Gauthier Mancello, mais on peut cliquer directement sur le site, ça tombe dessus.
Il y a le lien.
Voilà, et donc le 23 mars, donc c'est un peu de temps, le site sera mis à jour avec les parcours, les étapes, les concerts, enfin toutes les informations. Et puis il y a plein de manières de soutenir. La première manière, c'est de venir courir, c'est de où que les gens habitent, regarder le parcours et venir courir avec nous. Ce sera précisé les heures de départ, les lieux de départ précisément, etc. Et puis la deuxième, c'est qu'il y aura un des moyens de financement, c'est le crowdfunding, et donc de faire circuler ce lien au maximum de gens en disant voilà un projet joyeux, vous pouvez l'accompagner, le soutenir en finançant. Voilà, il n'y a pas de petits dons, on fait des dons en kilomètres nous en plus. Donc c'est quelques centimes par kilomètre, on peut donner genre 1 centime par kilomètre, et finalement à la fin ça nous permet de financer cette aventure.
Eh ben écoute, je vais bien sûr partager tous les liens. On le redit, hein, si vous êtes sur le parcours, il y aura le parcours, donc on pourra vous rejoindre, voir pour venir vous accompagner, venir vous écouter, etc. C'est un chouette projet, vraiment super chouette projet. Merci d'ailleurs de partager ta bonne humeur, ta joie et ton partage comme ça, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'on le disait, hein, on sort quand même de, on est dans une période morose, c'est compliqué, et on sort d'une période Covid et on rentre dans une période avec là, on parlait de l'Ukraine, etc., qui est pas facile. Et c'est vrai que ces projets-là, de faire du lien, d'avoir de la musique, etc., ça fait du bien aussi.
C'est important. Je suis d'accord. Faut pas culpabiliser d'avoir des choses joyeuses, même s'il y en a pour qui c'est pas facile en ce moment. Ça ne nous empêche pas de penser à eux et d'avoir une ouverture sur le monde. Mais on peut pas ne parler que du Covid et de la guerre. C'est pas possible.
Voilà. Eh ben, écoute. En tout cas, merci. Et écoute, j'ai pas percé ton secret total pour toujours avoir le sourire et toujours partager de la bonne humeur, etc. T'as pas révélé toutes tes recettes, mais en tout cas, on comprend quand même que ce genre de projet, c'est une sacrée motivation. Partager cet amour de la musique et tout, c'est une sacrée belle motivation qui donne vraiment, vraiment une belle dynamique.
Eh ben écoute, voilà, plaisir partagé, hein, encore une fois.
Et bien entendu, je mettrai tous les liens en note de l'épisode pour retrouver. Et puis sur Instagram, on va partager, on va suivre ça. Moi, je vais suivre les aventures. J'imagine que ça va être partagé aussi au fur et à mesure que vous allez vous déplacer. Donc on va suivre ça avec attention. Et puis, eh ben écoute, maintenant on va se quitter. Je te souhaite une belle préparation. Je me dis quand même qu'à un moment donné, bon, t'as dit ce week-end, on chausse les baskets. Il va falloir attaquer un petit peu la préparation physique.
Ouais, je vais m'y mettre là. Allez, c'est promis, je vais m'y mettre. Parce que sinon, je vais me faire engueuler par ma femme qui va me dire c'est pas possible. Et elle aura raison. Non, je vais m'y mettre. Allez, une fois par semaine.
Eh ben écoute, c'est pas le programme le plus orthodoxe, j'ai envie de dire, pour préparer une telle distance. Mais tu nous prouves que dans ton cas, ça marche. Et c'est intéressant ce que tu avais dit aussi sur les barrières horaires, finalement, de dire que quand elles sont assez larges, et ben finalement, on peut les faire aussi. Plus facilement qu'il y paraît dans certains cas. C'est un beau message pour tous ceux qui se mettent des contraintes, des limites et qui se disent c'est impossible pour moi de faire de telles choses. Et ben tu prouves aussi qu'on peut faire des choses différemment, avec un état d'esprit différent. Et je te remercie beaucoup pour cet épisode. C'était vraiment un grand, grand, grand plaisir de discuter avec toi. Bien entendu, je mets tous les liens, je le répète, dans les notes de l'épisode. Et puis nous, ben écoute, les auditeurs, là, on va se retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Ah, je sais qui c'est, moi, les invités, mais je vous le dis pas, ça sera la surprise. J'aime bien les surprises. J'ai même un petit doute entre plusieurs invités, mais en tout cas, la chose est sûre, c'est qu'on va continuer à partager de la bonne humeur, du sourire autour du sport. Peut-être moins musical, hein. On peut pas parler musique tout le temps, mais en tout cas, c'était un plaisir de parler musique avec toi.
Bon, merci beaucoup. Plaisir partagé.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.